Là, comme tous les jeudis, on va faire un podcast qui sera un podcast uniquement audio et qui va consister en un entretien avec un auteur, un jeune auteur qui est Alexandre Costa, dont nous avons édité le premier livre. En tout cas, c'est pas forcément le premier qu'il a écrit, mais c'est le premier qu'il a publié, on va dire, avec nous, et qui est Paris 2033. Un livre que j'ai présenté plusieurs fois sur le canal, mais dont on n'a pas forcément fait une vidéo, on n'a pas consacré une vidéo à part entière sur ce bouquin très intéressant et qui, vous allez le voir, répond à l'actualité en quelque sorte, en la devançant de très peu finalement, parce que les choses vont très vite dans un sens qui est assez catastrophique pour nous, il faut bien l'admettre, et pour la race blanche, parce que ici on est sur Telegram et on est chez Conversano, on n'a pas peur d'employer les mots qu'il faut. Salut l'ami, comment vas-tu?
Ça va, merci pour cet entretien, je pense que ça va, oui, j'expliquerai plus tard, mais il faut faire vite avec ce livre, dans le sens que oui, l'actualité m'a rattrapé un peu.
Oui, en quelque sorte, notamment depuis BLM, c'est vrai que les choses s'accélèrent énormément, donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir en quoi ton livre a un peu prédit en quelque sorte ce qui allait se passer, il a devancé, voilà. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, c'est vrai que les gens ne te connaissent pas forcément, on va d'abord commencer par le bouquin, c'est-à-dire quand est-ce que tu as écrit Paris 2033, comment en as-tu eu l'idée, voilà. Et peut-être ça peut être intéressant parce qu'on a pas mal de gens parmi nous qui s'essayent à l'écriture. Combien de temps ça t'a pris, voilà? Est-ce que c'est écrit dans un jet ou est-ce que tu as mis du temps?
Alors en fait, je l'ai écrit au cours de l'année 2018. Mm-hmm. Et curieusement, il s'est écrit assez vite. Et en fait, je constate, peut-être c'est que moi, mais je pense que c'est généralisable. Il y a deux types de livres. Il y a ceux qui viennent naturellement parce que en fait... vous l'avez déjà écrit dans votre conscient, donc en fait vous transcrivez juste ce que vous avez déjà ressenti, ce que vous avez vu venir, les réflexions que vous avez déjà eues, mais dans un cadre qui est celui de la fiction, avec un personnage, donc pour rendre les choses intéressantes et rigolotes. Donc j'ai jamais eu d'hésitation à l'écrire. L'avantage aussi de ce type d'écrit, c'est que ça... Comme ça ne dépayse pas de l'endroit où je travaillais à Paris, eh bien je devais l'écrire même. J'écris certaines parties au bureau, donc j'ai volé du temps de travail comme ça quand j'avais fini mon taf. Ce qui fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir de se venger un peu parce que
oui.
Il y a beaucoup qui glandent au bureau, donc ils ne font rien. Moi je fais leur travail en deux fois moins de temps, donc après j'en prends un peu pour moi. Et voilà, c'est dans leur gueule. Donc j'ai jamais eu d'hésitation. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres livres qui sont plus dépaysants, dont un que j'ai commencé avant celui-ci, que j'ai toujours pas fini, parce qu'il faut être dans un certain cadre. On l'écrit pas en étant stressé en plein Paris. Si on parle d'une autre époque, d'une autre géographie, d'autres personnes, on ne peut pas juste l'écrire aussi facilement. Donc voilà, c'est deux types de romans, je pense. Et il appartient clairement au premier type qui s'écrit facilement, donc ça a été fait assez rapidement. Après, c'est vrai que j'aurais dû chercher tout de suite à l'éditer, quoi. J'avais peur des conséquences, des retombées.
Ouais. Donc. Ouais, en fait, toi, tu avais un boulot qui est similaire au personnage principal du livre, quoi. Un boulot dans le tertiaire, un peu casse-pied, dans lequel tu es obligé de respecter, on va dire, des codes de vivre ensemble complètement casse-couilles.
Oui, alors en fait, j'ai relativement épargné, mais on a eu nos expériences. Tiens, ça, c'est le petit qui vient d'envoyer son biberon à travers le mur. On a eu des expériences avec la diversité. Je pourrais détailler plus tard, mais bon, ils sont toujours très marrants. Et puis l'attitude des Blancs aussi vis-à-vis d'eux, je pense que c'est assez génial. Mais c'est pas ce qui choquait le plus. Ce qui choquait le plus, c'est de sortir de Paris, de voir ce qu'il y a à l'extérieur, de voir les affiches en rentrant
ouais.
Au bureau aussi, de publicité. Il y a un passage dans le livre qui reprend cette partie où il essaye de coller des affiches gigantesques de diversité. Et puis l'affiche se décolle et le métis se met à rager, à crier des horreurs. Et bien, tous les autres, les employés de bureau regardent en admiration. Et il y en a une qui soulève qu'elle n'est qu'à moitié blanche et qu'elle est surtout indienne, qu'elle s'identifie comme ça, on voit la femme.
Oui.
C'est,
Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, comment on pourrait définir le genre du livre? C'est pas forcément évident parce que c'est à cheval un peu entre plusieurs genres. Comment tu te classerais, toi?
Ben, je dirais que c'est un livre d'anticipation, un peu science-fiction dystopique. Je dirais que en fait, les deux plus grandes influences pour le livre, ça a été un mélange de 1984, un roman que j'ai adoré, à cause d'idées, hein, à cause de l'aspect philosophique, à cause de la réécriture du passé, ce genre de trucs. Tout ça, c'est repris dans le livre. Je n'ai rien inventé, j'ai juste appliqué au milieu actuel et la diversité. Et en même temps, tout cela est teinté de idiocratie. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que les blancs sont grand remplacés, on ne peut pas s'attendre à une implémentation du régime totalitaire aussi parfaite que dans 1984. Donc, c'est à la fois un peu de soulagement, parce que sinon, c'est vraiment concentrationnaire. Enfin, il y a un moment où ils essayent de quitter l'île de la diversité, je veux dire l'île de. L'île de France, oui. J'arrive plus avec les anciens noms. Ils essaient de quitter l'île de la diversité et il y a un noir qui leur demande où est-ce qu'ils vont. Ils doivent donner une justification. Bon, tout ça, c'était bien avant les certificats Covid, hein. J'écris ça en 2018. Mais ils doivent donner une justification. Elle en donne une fausse. L'autre, il s'inquiète un peu, mais elle lui dit, mais en fait, ils n'arrivent pas à bien lier les dossiers. Donc, heureusement qu'ils sont pas encore très capables, en fait, parce que sinon, ce serait aussi triste qu'en 1984. Et ça, c'est pas ce qui est recherché. Voilà, donc je définirais comme ça, hein, une sorte de mélange. Et le nom lui-même, je l'ai pris de métro 1033, qui est vraiment obscur. On est dans les métros de Moscou après une guerre nucléaire. Bon, mais voilà, quand on se promène dans Paris maintenant et qu'on s'en promenait il y a 20 ans, si on fait la comparaison, bon, c'est pas une guerre nucléaire, mais c'est un impact tout aussi impressionnant. Donc, j'ai pris le titre un peu là-dessus. Et c'est pas vraiment un roman politique parce que je pense pas qu'il y ait de politique dans ce livre. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de. Les individus sont assez atomisés. Il y a de l'idéologie, mais il n'y a pas une idéologie proposée pour remplacer celle qui est imposée sur les personnages. C'est vraiment un politique.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, le changement de peuple entraîne aussi des incompétences nouvelles, c'est-à-dire des gens qui sont à des postes de pouvoir où ils ne devraient pas être, et ça laisse des espaces quand même. On se dit, mais finalement, on peut quand même, voilà, quand tout n'est pas perdu, il y a moyen de renverser cette.
Mais malgré ça, tu vois, on n'est qu'en 2033, il y a encore des blancs qui font les administrateurs et qui sont du côté, eh ben, comme les capots dans les camps de concentration, ils sont du côté des autres. Et ça, c'est le problème.
Alors, quand tu as vu l'actualité BLM et ce qui a suivi, parce que finalement BLM, en fait, j'ai envie de dire, c'est toujours pas mort. Tu sais, il y a les pilotes de Formule 1 qui continuent de se mettre à genoux un an après. En football, c'est pareil. Des fois, tu t'es pas dit, bah, la réalité dépasse la fiction. Finalement, j'aurais dû l'appeler de Paris 2023.
Alors, c'est vrai que c'est arrivé plus vite que j'avais prévu. Par contre, dépasse la fiction, non, je n'irai pas aussi fort. Parce que même si certains faits divers qui se sont déroulés depuis, comme celui de l'Anglais dans sa campagne, qui va dans son jardin pour bronzer, et puis pof, il y a un Africain qui tombe dans son jardin parce qu'il s'était. En fait, il était tombé d'un avion et il était tombé. Mais, tu sors dans ton jardin et il en pleut, quoi. Donc, mais il en pleut physiquement. Je veux dire, ça, je ne l'ai jamais mis dans le livre parce que je cherche un effet de vraisemblance et je ne peux pas me permettre de mettre ce genre de trucs qui arrivent, qui sont arrivés depuis. Mais à part ces cas, disons, isolés, que je sache, on n'est pas encore irradié par des camions micro-ondes lorsqu'on est suspecté d'être un peu. D'être un
Mal
peu,
pensant,
je
ouais.
sais même pas quoi dire, oui, mal pensant, exactement. Et on n'avale pas consciemment des pilules d'ocytocine avant la semaine de la diversité pour être sûr de ne pas rejeter l'autre. Il n'y a pas encore d'application en ligne pour dénoncer ton blanc à la police antiraciste. Il n'y a
Ouais,
pas encore de
balance ton
police
blanc.
antiraciste. Oui, voilà. Y a pour l'instant, le système judiciaire, il n'est pas encore. Splitté en deux avec la police antiraciste qui n'a même pas à suivre les voies normales de la justice. Non, je pense pas qu'on ait dépassé encore. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées depuis 2018. Ça me chagrine parce que ça diminue la valeur anticipative du roman, c'est clair. Et c'est pour ça que je t'ai contacté. Je prends le risque de la publication. C'est clair que c'est pas un roman bien pensant. Il y a des choses qui sont passées. Le changement des statuts, par exemple, le changement des noms des rues, tout ça, j'avais écrit Île de la diversité. Il y a l'épisode de la statue de Molière, d'ailleurs, qui est remplacée. Et la grand-mère, c'est la statue dans le 16e. Tu vois le parc du
Oui,
16e, il y a la statue
oui.
de Molière. Et c'est très drôle, d'ailleurs, parce que j'ai écrit Voltaire dans le titre. C'est-à-dire que c'était une erreur de ma part. Et après, mon épouse m'a fait remarquer que c'est une erreur. Mais j'ai dit, mais en fait, c'est génial. Parce que cette erreur révèle que, avant d'être remplacée par un noir, cette statue, on ne savait plus déjà qui elle était. Donc il y a d'abord un flou sur la culture. On confond Voltaire et Molière parce qu'ils terminent pareil. Et après, on met l'échafaudage. On ne voit rien pendant une semaine. Et puis après, et ben, on s'aperçoit que Molière, en fait, était un noir avec de grosses lèvres et tout. Donc la mémé proteste, voilà, parce qu'elle est d'un autre monde. Et là, forcément, ça se passe mal pour elle dans le livre. Le narrateur est médusé, il regarde comment est-ce qu'elle a pu protester qu'elle manque de
Oui.
savoir-vivre, disons.
Ouais.
Et aussi les processions, dans mon livre, tu en as une avec. Mais moi, j'avais mis des religieux. J'avais mis des religieux, sorte de culte à la diversité. Mais il y a eu beaucoup de processions, je crois, avec Black Lives Matter et aussi des blancs qui s'agenouillent.
Oui,
Et
oui,
donc, oui, c'est
oui. En fait,
intéressant ça, parce que s'agenouiller pour le blanc, c'est aussi très intéressant si tu fais le lien avec la Grèce antique. On s'agenouille devant les dieux. Les Grecs, même devant leur tyran, s'ils ont un tyran, ou devant leur noble, ils ne s'agenouillent pas. Ce sont les Perses qui font ça, ce sont les
Oui.
autres civilisations où tout le temps c'est autocratique, on t'écrase, l'individu n'a aucun droit, c'est la pure force, voilà. Donc les barbares. Et donc s'agenouiller, je trouve que c'est intéressant parce que le noir est vraiment déifié sous cet aspect.
Ouais, complètement, complètement. Et c'est en train de devenir international d'ailleurs. Il y a vraiment parmi tous les autres peuples, les Noirs sont extrêmement valorisés. Partout, on entend parler d'eux. Bon, ça devient ridicule. Ça devient un automatisme en fait. C'est absurde quoi. Alors, bon, un truc qui m'a marqué aussi dans ton livre, c'est que le masochisme. Tu sais, on dit souvent les Blancs sont ethnomasochistes. Bon. C'est vrai qu'ils le sont, mais on va dire dans le livre, ils le sont à un niveau d'intensité qui est, je dirais, qui n'est même plus conscientisé, qui est même plus conscient. C'est-à-dire, ils ont honte d'être qui ils sont. Et je voulais savoir si toi, dans ton milieu professionnel ou dans ta vie, tu avais vraiment rencontré des Européens qui avaient honte d'être qui ils sont, quoi. Est-ce que c'est une exagération? Est-ce que les gens font semblant, finalement, selon toi? Ou est-ce que vraiment il y a un dégoût d'être blanc?
Alors, tu sais, c'est psychologique et c'est inconscient. Mais c'est pas seulement un phénomène de honte, et comme dans Paris 2033, où là c'est plus abouti, où ils ont vraiment honte d'être ce qu'ils sont. En ce moment, je dirais, c'est un mélange de honte et puis aussi, en fait, ils sont désolés pour les non-blancs. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, inconsciemment, ils les trouvent. Je vais donner la liste d'adjectifs, mais en fait, ils sont bien conscients que la plupart ne sont pas nés avec des qualités tout à fait
Oui.
incroyables. Et du coup, ils veulent compenser. Ils se sentent, c'est comme un peu si t'as deux enfants et que tu donnes un pain au chocolat à l'un et l'autre le mange en entier sans proposer, et après il a un peu pitié de. Voilà, ils ont pitié. Donc c'est ça. Donc en fait, les blancs, ils se croient encore supérieurs. Dans ce sens, juste par ce qu'ils sont. Et du coup, ils sont capables de donner beaucoup plus pour essayer de compenser qu'en fait, ils n'ont rien à donner. Je vais prendre un exemple. Mon manager, là, on a eu un représentant de la diversité qui vient. Il me fait que du double du boulot parce que je dois tout vérifier.
Ouais.
Je t'avais déjà raconté, il y avait même un lien porno. Dans un des Excel qu'on allait envoyer, quoi.
Oh là là.
Donc, c'est ce qu'il faisait toute la journée. À un moment, je faisais la blague aux autres collègues, hein, qui n'étaient pas de la diversité. On rigolait bien. D'ailleurs, ça, c'est une astuce, hein. Soyez drôle Et après, lancer des blagues quand vous sentez le contexte, et avec les hommes même de gauche, en fait, ça passe. J'essaie un peu de convertir comme ça. C'est toujours marcher sur un fil. Et donc, ma blague, c'était que toute la journée, en fait, tu regardais des pornos. Et puis après, je trouve ce lien, justement. Donc, moi, j'ai l'habitude, hein, je fais souvent des blagues comme ça qui se réalisent.
C'est dingue.
Donc voilà. Et tout ça pour dire qu'au bout d'un grand moment, je fais remonter que cette personne ne fait absolument rien. Et le manager, quelle est sa réaction? Oh, c'est dommage quand même. Oh, ici, c'était une bonne occasion pour lui. Ah, c'est quand même dommage pour son futur. Mais j'étais là, genre, putain de merde. On est tous sur des contrats à court terme. On n'en a rien à foutre quand l'un des blancs gicle. Et par contre, quand on a un non-blanc, alors là, c'est
Oui.
son confort qu'on. Il devenait maternel. Alors, je ne sais pas si c'est l'accumulation de graisse qui provoque du trop d'œstrogène et il devient plus femme et il veut materner. Donc, mais c'est un adulte, le type. C'est un homme et c'est un adulte, même s'il paraît comme un adolescent de 18 ans. C'est pas à nous de nous soucier de son avenir professionnel. Je veux dire, déjà, il est entré, on ne sait même pas d'où il vient. Alors
Oui.
que moi, on a appelé tous mes anciens managers, on les a checkés un à un. Lui, on ne sait même pas quel diplôme il a, on lui a fait confiance, et il vient juste un jour. Alors, I want to work for you. Do you have any job? Et on le prend. Mais c'est
C'est vrai que c'est
l'attitude, en
dément,
fait, on a
quoi.
quelque chose à compenser, on veut l'aider.
Il y a un deux poids, deux
Tu sais?
mesures qui donne envie de tout
Oui.
casser, quoi. C'est le mec qui
C'est
fait une connerie, il
flagrant.
est juste incompétent, et au lieu de dire bon, on le dégage, c'est un poids mort, le mec a pitié, en fait.
On me dit peut-être c'est toi, peut-être il n'a pas bien compris la tâche. Alors que je l'ai expliqué la tâche, elle n'est pas si difficile que ça, la tâche. Je sais superviser des gens quand même. Oui, peut-être c'est moi. Donc je me tape un dossier de 30 pages pour être sûr de justifier qu'on va finalement le foutre dehors. Après, on lui dit, oh, mais le pauvre, il faut lui donner 3 mois de plus. Je suis là, genre, on donne personne à nous, on donne pas 3 mois de plus. Donc pendant 3 mois de plus, il glande, mais on ne fait rien. Donc il n'y a pas de double travail, c'est juste qu'il fait rien. Il est payé comme un vrai consultant. Et puis, ouais, j'ai quand même signalé à la femme qui travaille en face de lui, à ma collègue, que bah, le gars, en fait, il mate probablement des pornos toute la journée. Elle m'a dit, ah, mais c'est pour ça qu'il a l'air, cet air un peu bizarre. La prochaine fois, je laisse le porno dans l'Excel. Comme ça, voilà.
Oui,
On pourra se
au moins il
débarrasser
aura
de
la
lui
honte,
magique.
quoi, réelle.
Ah là là. Mais bien, en plus, j'y vais. Je lui dis, bon, je vais pas continuer là-dessus, mais ils sont bêtes des fois. Ils sont vraiment. Ils sont bêtes. Je lui dis, peut-être c'est parce que tu cherchais avec tes settings sur Google dans cette autre langue. Il dit, non, non, je suis en anglais. Bah alors, dans ce cas, en anglais, on tombe pas sur ce lien. On tombe pas sans rajouter d'autres mots-clés qui ne
Oui,
sont
oui,
pas
oui.
appropriés pour le bureau. Donc, pourquoi tu t'en prends pas la perche que je te tends, quoi? Mais voilà, quoi. Bon, assez avec lui. Je sais même plus ce qu'on disait, du coup.
Non, 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 mais ce que, en fait, c'était intéressant parce que ça paraît rien, une anecdote comme ça, mais c'est vrai que moi, plusieurs fois, bah, quand j'habitais encore en France, j'ai eu à souffrir de. Bon, au-delà de la sécurité, la violence, bon, ça, c'est tellement évident, on n'en parle même plus, mais. Je me souviens une fois, tu vois, j'étais à un internet café à l'époque où tu sais la 4G ça marchait pas, bah ça existait même pas, tu vois, il y avait que la 3G. On devait être en 2012-2013 et je vais dans un internet café à Paris parce que j'avais besoin absolument d'envoyer un document et il y avait un noir à côté de moi. En fait, il regardait du porno dans un internet café. Mais tu sais, il s'en cachait pas. Il c'était juste à côté. Alors il se masturbait pas, mais il regardait du porno comme toi, je sais pas, comme on va regarder un match de foot ou tu vois le résumé d'un truc
Mais
banal, tu
ça,
vois.
c'était pas au bureau. Attends, moi j'aurais aimé qu'il regarde dans les cafés quand il vient au bureau.
Mais
C'est
c'est
vrai, une
que.
fois il a touché ma souris, j'ai nettoyé avec l'antiseptique, c'était avant le Covid. C'était clairement avant le Covid, j'ai nettoyé parce que je sais pas qu'est-ce qu'il fait au bureau, encore une fois. Parce que ma blague c'était que, vu qu'il écrit pas des livres comme moi au bureau,
Ouais.
vu qu'il n'est pas un artiste, vu qu'il ne lit pas des choses pour se renseigner, et qu'il n'écrit pas de thèse, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'était ma blague de dire qu'il regardait des pornos.
Oui.
Et puis après, je trouve ce lien, et c'est
Et
marrant.
ah, c'est
Ça m'arrive
incroyable.
souvent de faire des blagues, et après, les blagues sont annulées.
Oui, oui,
C'est
oui, oui. Bah parce qu'on finit par
pas l'actualité aussi, hein.
On arrive à prévoir finalement parce que ils sont prévisibles en fait. Leurs conneries sont prévisibles et finalement après ça arrive dans le vrai monde.
Oui, en fait, si on arrive sans préjugés, ils sont entièrement prévisibles. Mais le problème, c'est que le blanc, il arrive avec tous ses préjugés. On me fait, oui, mais on avait eu quelqu'un de cette nationalité et elle était très, et cette personne était très bien. Donc c'est bien parce qu'on a affaire à un club de gauchistes et en fait ils sont super racistes, ils en ont vu un, ils ont généralisé à toutes les... Alors ça c'est l'amalgame, hein. T'en vois un, tu généralises à tout le monde, puis en plus il y a une manière de généraliser. J'ai demandé, et cette personne, c'était un homme ou une femme? Une femme. Ah, bon, ouais, sans blague, en Inde, les femmes travaillent plus que les hommes. je le savais. Mais voilà quoi.
Est-ce que, bon là on a parlé des choses amusantes, mais est-ce que tu as déjà eu à souffrir, on va dire, de l'immigration, des mauvais, enfin des agressions verbales, physiques, de toi ou de proches, des choses qui t'ont marqué?
Alors, en termes de, oui, de traumatisme personnel, non. Heureusement, non. Directement, non. Après, si c'est juste de souffrir de la diversité, bah, j'ai beaucoup vécu en France.
Oui,
Donc, voilà.
tout
Si tu
simplement.
vis en France, tu en souffres. Tu peux pas être, tu peux être dans le déni, mais ça t'empêche pas que c'est toi, le nouvel esclave, la nouvelle victime. Je veux dire, tu en souffres psychologiquement. Tu as la rééducation nationale, même à 3 ans maintenant, comme veut Macron, donc il veut tes enfants. Donc il prend tes enfants très tôt pour être sûr qu'il va les formater de manière à ce que ça devienne les déchets humains décrits dans le livre Paris 2033. Tu as les prélèvements sociaux et les impôts, 50%, je veux dire. À titre de comparaison, au Moyen-Âge, le cerf, il reversait 25% de la récolte. Donc là, on est quand même au double en termes de pression d'impôts, donc on te prend tes moyens de subsistance. Après, à chaque instant, même en plein 16e, tu peux y passer quand même. Je veux dire, les autres le voient pas jusqu'à ce qu'ils y passent. Et puis après, on a le biais du survivant. On demande aux gens qui y sont pas passés, on demande comment ça se passe à Paris. Oh, ça va. Oui, mais demandez aussi aux morts comment ça se
Exactement.
passe, à tous ceux qui sont poignardés. Voilà. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas répondre. Eux, je pense qu'ils auraient peut-être fait le choix d'une remigration. Je sais pas. Mais quelque chose me dit que voilà. L'échantillon est biaisé. Et
Mais
puis, et
t'as trouvé le mot juste.
souffrance.
C'est vrai qu'on. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais
On n'y pense pas.
le biais du survivant, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est cette
Hein. On
idée
n'en parle pas du
que,
tout.
même dans les pires dictatures qui ont existé, il y a toujours des gens qui s'en sortent bien et qui ont une vie correcte. Et en fait, si c'est à eux qu'on tend le micro, bah évidemment, pour eux, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, le gars, il habite dans le 7e arrondissement, il a une nana, il a du patrimoine, voilà, il s'est jamais fait emmerder par un noir, donc pour lui, bah, il se dit que tout va bien, quoi. Et bon, les
Mais
autres.
même s'il dit que ça va pas si bien parce que de temps en temps il se fait racketter et tout, je veux dire, la manière, la pondération négative de son expérience qu'il va mettre, ça sera jamais la même que celui qui a vu toute sa famille fusillée devant lui et puis il est explosé lui-même au Bataclan. Je veux dire, c'est clairement que ces gens-là, ils auraient mis une telle négativité dans leur expérience que ça aurait fait baisser la moyenne de tout l'échantillon, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis en fait, on en souffre de la diversité, je voulais dire aussi, tout simplement esthétiquement dans la rue quand on sort.
Oui, tout à
C'est
fait.
une souffrance esthétique. Et je pense qu'on a eu très tort d'abandonner l'esthétisme, parce que c'est en fait, si une vie juste utilitariste, on peut se poser la question si elle vaut la peine d'être vécue. Voilà. Et donc les sociétés anglo-saxonnes et très travaillistes, qui ont construit l'Angleterre qu'on connaît, tu sais, rien reconstruit à l'ancienne, mais tout reconstruit en très moche. Et ben, je pense que cet effet, en fait, ils ont rendu la vie moche. C'est ça qu'ils ont fait.
Ouais, c'est vrai, c'est intéressant la réflexion que tu fais, ça me fait penser, tu sais, à l'enlaidissement des périphéries françaises. Évidemment, nos villages sont magnifiques, mais tu sais, les gros centres commerciaux, avec un station-service, un Décathlon, trois ronds-points, tu sais, un enlaidissement aussi citadin qui affecte un peu l'esprit, quoi. On ne cherche plus à créer du beau, et du coup, bah, il y a une tristesse, en fait. Il y a
Et
vraiment
c'est
des...
pas seulement pour encore le grand supermarché, même s'il est moche, tu peux dire il est utile à tout le monde. A priori, tout le monde peut faire ses courses. Mais le grand HLM où il n'y a qu'un type de personne dedans, il est utile qu'à un type de personne. C'est dégueulasse d'imposer ça à tout le monde parce qu'il y en a qui arrivent avec absolument rien et qui peuvent pas payer des maisons qui respectent le cadre ou où ils arrivent, construites dans, je sais pas, dans les pires pays ou dans un style qui dégueulasse pas tout. Mais ça, il y a une vidéo sur l'architecture de Paul Joseph Watson sur Internet qui est pas mal sur l'architecture et ce désir du moche qui est bien expliqué et qui sera mieux expliqué que n'importe quoi que je pourrais dire là. Et je voulais juste mentionner un autre point qui m'était venu à l'esprit concernant comment on souffre de la diversité. Alors là, c'est un phénomène, je m'en suis aperçu que récemment, mais je pense, et c'est hautement théorique, hein, mais il y a des phénomènes de pronoms plus complexes, et je ne l'explique pas, mais je dis juste que c'est probable que le constat, c'est que quand il y a beaucoup de diversité à un endroit, déjà, vos femmes sont plus moches. C'est un truc de fou. Et il n'y a pas d'enfants. Et je les constate là où je vis actuellement. Je dirais pas où je vis parce que c'est top secret, mais en gros, choisissez n'importe quel pays blanc, il n'y en a pas tant que ça. Donc,
ouais.
Il fait mieux d'y vivre qu'à Paris. Alors ça c'est carrément, ça c'est de la matrix, hein, c'est de l'imagination pure. Mais quand il y avait un divers dans le parc où normalement il y a toujours plein d'enfants, il n'y avait pas d'enfants. Et quand il y a des enfants, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils sont mutuellement exclusifs, comme dans un mauvais jeu qui aurait été programmé pour que quand tu en mets un, ça annule tous les enfants autour et ça rend les femmes moches. Donc, non mais écoute, c'est produit tellement de fois et ça a été vérifié par ma compagne que je peux pas dire que le phénomène n'existe pas. Je sais pas l'expliquer. Mais alors peut-être que les gens ont peur, ils retirent leurs enfants parce qu'ils en voient un, mais je pense pas qu'ils soient si craintifs que ça. Donc, je sais pas quelle est l'explication. Le truc des phéromones dans le métro avec cette grande mixité, ça c'est vrai, hein. Quand tu respires une odeur, ça rentre dans ton nez, ça déclenche un tas de signaux hormonaux. Et apparemment, je sais pas, mais les femmes deviennent pas plus belles et les hommes deviennent pas moins stressés avec
ouais.
Stress. C'est clair. Mais il y a aussi autre chose.
Ouais, peut-être que ces lieux deviennent moins fréquentés parce que, intuitivement, même un blanc qui n'est pas politisé va les considérer comme dangereux, alors il va moins y aller, tout simplement. Ça va être déserté, quoi, tout simplement.
Oui, et puis ça rajoute du stress d'avoir trop de monde. Et quand ils sont là, ils sont toujours trop nombreux aussi. Donc,
oui, oui.
Et tout,
c'est vrai.
Forcément, le stress rend très moche. Il y a toute la partie, en fait, des épigénétiques, ça s'appelle. Je trouve que c'était intéressant. C'est que tu as toujours le même ADN, hein, sauf si c'est modifié par un vaccin ou par une mutation. Mais il y a la manière dont ça enroule autour des molécules qui s'appellent les histones. Ça détermine un peu quelle partie va être transcrite. Donc, la partie de ton ADN qui s'exprime et que tu vois peut être très différente suivant ton milieu. Mmh. Et ça m'intéresse parce que ça permet d'expliquer un peu comment les peuples de l'Europe occidentale sont devenus très moches. Je confirme en comparant à d'autres pays, on devient moche. Alors bien sûr, il y a le gauchisme, le surpoids, l'ambiance, la guerre psychologique contre blanc. Oui, il y a tout ça, l'usage de substances. Tout ça, ça rend pas beau. On est d'accord. Mais je dis, il y a peut-être autre chose qui est plus dans l'expression génétique des gènes. Tu peux exprimer que seulement tes mauvais gènes et paraître finalement comme un monstre, bon, tu ne seras jamais aussi terrible que la diversité. Mais quand même, tu seras moins beau que les gens dans des pays blancs ou que les gens de ton pays il y a 30 ans. Donc c'est intéressant.
Ouais, j'avais jamais entendu ça, c'est troublant, effectivement. Moi, c'est pas moi qui suis en Roumanie qui vais être contre
moi. J'ai pensé qu'il y a quelques semaines, ça fait peur, mais c'est en ayant la possibilité de comparer avec un autre pays que j'ai pu y songer. Parce que quand tu vis que dans ton pays, en fait, tu vois pas. Tu penses que c'est normal que les gens sont difformes, moches et puis dégueulasses et que tous les couples sont mal assortis et dégueulasses et t'en as envie de vomir. Je pensais que c'était normal, que c'était juste difficile d'avoir une copine de France ou des trucs comme ça. Mais en fait, non. En fait, c'est vraiment... Il y a des facteurs qui doivent jouer parce que, en fait, tous les blancs sont pareils. Enfin, ils sont pas pareils, mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas si différents. Et donc, d'autres facteurs qui sont environnementaux qui doivent être en train de les transformer en ce moment même où nous parlons.
D'accord.
Et ça, c'est amusant. C'est amusant.
Alors, j'imagine que si tu t'es expatrié, c'est que tu n'as pas forcément un espoir politique pour la France, notamment en 2022. Toi, tu crois pas au réveil identitaire des Français?
Non. Et c'est vraiment un nom profond, c'est un nom métaphysique et existentiel, quoi. Les Français ne sont pas racistes. Ils sont résolument pas racistes. Alors je dis pas anti-racistes dans le sens que tout le monde ne va pas faire la guerre aux soi-disant racistes, mais ils ne sont pas racistes. Et dans une guerre, basse intensité, ça les pénaliserait d'une telle manière que c'est juste impossible qu'ils s'en sortent correctement. On a des patriotes en France, patriotes entre guillemets, qui essaient régulièrement de prouver qu'ils ne sont pas racistes et de s'en rassurer. Mais ce sont des gens qui se nomment les dissidents. Mais la seule chose interdite par le système, et en fait en pratique seulement aux Blancs, c'est d'être communautariste ou racialiste. C'est la seule chose qui est interdite. Donc comment vous pouvez être dissident en respectant cette interdiction, en fait? Il n'y a pas de dissident en France. Ça, c'est la vérité. Et il n'y a pas de parti politique pour représenter un truc qui n'existe pas. Je veux dire, t'as des gens du FN qui vont prendre leur couscous tout contents, qui se photographient. Je sais pas, de toute façon, Marine au pouvoir ou pas, la démocratie fera le reste. Juste gagner, tu gagnes quelques mois, quoi, tu gagnes quelques années, voilà. Tu gagnes, allez, tu gagnes 5 ans avec Marine. Et encore, il y aurait tellement d'émeutes, de révoltes qui pourraient faire tellement de pression qu'ils obtiendraient d'autres avantages, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pas vraiment des guerres, c'est pour avoir des avantages, des subventions. Il y a un policier qui a écrit un excellent à ce sujet, et c'est vraiment dommage que je me rappelle pas du titre. Ça se passe dans les banlieues à Seine-Saint-Denis et comment les leaders montent des émeutes sous des prétextes futiles, on sait, pour obtenir l'argent des allocations par les gauchistes au pouvoir. Mais tout ça va pas arrêter parce que même si Marine arrive au pouvoir, et en plus elle n'arrivera pas. Donc ceci dit, je dois continuer parce que je veux pas être défaitiste. Je veux absolument pas être défaitiste et je veux pas laminer le moral d'auditeurs qui sont, je pense qu'ils sont la crème de ce qu'on a en France. Parce que non seulement ils se sont aperçus qu'un truc n'allait pas, mais en fait ils se sont tournés du bon côté. C'est-à-dire que je vais te féliciter, toi et tous tes followers. Et si tu me connaissais mieux, je saurais que je ne suis pas quelqu'un qui donne des félicitations facilement. Hein. Moi, les compliments, alors pour m'en arracher, moi, c'est plutôt difficile. Mais vous êtes les seuls dans la dissidence, entre guillemets, à mon avis, qui proposez une vision réaliste qui est basée sur le principal problème qui cause tous les autres. Vous ne faites pas intervenir des aliens de l'espace au nez crochu, ou des réconciliations des femmes violées avec leurs violeurs, ou je ne sais pas quel autre projet des autres. Vous faites ça sans utiliser, sans but pour marketer vos manies stériles, parce qu'il y a des gens qui utilisent juste la cause et le problème que tout le monde voit pour marketer, que ce soit royalisme ou républicanisme, ou l'amour des petites pièces japonaises et les appels à voter Fillon juste avant les élections. Voilà, ce sont des blagues. Je veux dire, ce sont tous, sans exception, des blagues. Moi, si j'étais la gauche et je voulais couler l'extrême droite, je ferais exactement ça. Des personnages qui ont l'air leader charismatique, qui dénoncent le truc en gros, et puis après qui font les blagues. Tu vois, comme l'appel de Lesquin à voter Fillon, c'était pas mal, quoi. Je veux dire, c'était parce qu'avant, le personnage, il m'amusait un peu. Et puis après, j'ai vu ça, j'ai dit, d'accord, il y a une blague. Par appréciation de lui, je faisais tout un canal Telegram où j'imitais sa voix, je faisais plutôt bien. Alors, bon, je vais vous expliquer. Et puis, j'ai arrêté ces imitations quand je m'en suis aperçu que le personnage lui-même était une blague. Donc, du coup, j'avais plus
Ça
envie
te
de
faisait plus
parler
rire,
de
ouais.
lui, c'était pas drôle. Bah oui, voilà, ça fait plus rire. Tu vas pas parodier un gars qui est déjà une parodie vivante. Et c'est dommage parce que ça m'amusait bien de faire cette parodie. Et puis, enfin, et le plus important, c'est que vous proposez, tu proposes aux gens qui te suivent une suite d'actions concrètes à entreprendre. Et ça peut être monter un réseau soudé en France et de se fortifier, entre guillemets, un tant soit peu, ce qui est déjà un bon début. Ça peut être de fuir, alors j'aime pas trop ce terme, disons repli stratégique, puisque la majorité est résolument contre vous. Et que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des choses pratiques. Ce ne sont pas juste le spectateur de tous les autres channels qui veulent juste en fait vous faire profiter des clics pour gagner de l'argent. Et en fait, ils vous dépriment. Et j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à faire que s'ils vous dépriment à la fin. Ils s'en foutent en fait. En fait, ils sont le jeu même de vos ennemis. C'est dans un sens, peut-être sans le vouloir, hein, mais juste en rapportant que du négatif, je vois pas dans quel état ça peut mettre, par exemple, un jeune Isblé en banlieue déjà racialement sinistrée. Je vois pas comment cette personne peut s'en sortir en lisant que du comment ça s'appelle, François de Souche, là, français de FDS.
Oui.
Qui est intéressant par d'autres aspects pour l'information, mais le problème de tous les autres, c'est qu'en fait, y a un terme qui s'appelle lieu de contrôle. D'accord? C'est très important en survivalisme parce que les gens qui ont un lieu de contrôle, qui mettent des facteurs externes, ils tiennent bien mieux et surtout ils entreprennent moins dans leur vie. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu reprends le locus of control, le lieu de contrôle, et tu le remets entre les mains des gens. Donc, les gens reviennent des acteurs de leur vie et de leur futur, malgré toutes les forces adverses qui sont immenses. Hein. Et là, je ne minimise pas l'adversité, mais je dis juste que c'est mieux pour le moral d'être acteur plutôt que spectateur. Alors, attends d'être sauvé par la prochaine élection en France en plus, mais psychologiquement, mais c'est le pire, c'est horrible.
C'est clair.
C'est remettre entièrement le lieu de contrôle à des facteurs extérieurs qui sont absolument incontrôlables. Ça mène à la dépression puis au suicide. Donc, il faut que les gens arrêtent de se suicider. C'est très dommage. Il y a plein de choses à faire avant d'en arriver là. Il y a plein de choses à essayer, surtout les publics encore jeunes qui doivent te suivre. Vraiment, c'est une option qui est vraiment non, non, non et non. Et donc, il faut comprendre que, ben oui, de tout temps, il y a eu des choses difficiles et les gens ont survécu. Des fois, numériquement, c'était
Oui.
difficile, mais le plus important, c'est de survivre. Voilà.
Bien sûr, faut éviter les grandes phrases, les analystes, tu sais, qui sortent du congélo. Ah, Céline qui a dit que l'homme blanc était mort à Stalingrad et compagnie. Tu sais, tout ça, c'est des incapacitants, quoi. Je veux dire, bien sûr que la situation est catastrophique, mais l'histoire des hommes est remplie de situations de merde comme ça, quoi. C'est
Tout à fait,
la
tout
vie,
à
c'est se
fait. Je veux
battre.
dire, t'as la Deuxième Guerre médique et tu as les armées de l'URSS qui arrivent devant Athènes.
Ouais.
Mais je veux dire, ils ont brûlé Athènes, d'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant, les Athéniens, avec l'aide des alliés aussi du Péloponnèse, ils ont transporté avec leur flotte les gens d'Athènes sur l'île de Salamine qui était juste en face.
Ouais.
Donc quand après ils ont eu la victoire de Salamine, ils ont pu reconstruire. C'est pareil avec la France, je veux dire, des fois il faut savoir partir. Il y a des vieux qui sont restés sur l'acropole pour défendre la place la mieux fortifiée de la ville. Bon, ils sont morts. Mais bon, c'était des personnes plus âgées, c'était pas les femmes et les enfants. Et ça c'est important aussi quand vous faites un choix de vie, de penser, ok, je fais ce choix pour moi. Je le fais aussi pour les futurs enfants que je vais avoir. Alors, moi, j'ai envie peut-être, je sais pas, chacun a sa déconnexion d'une guerre civile, donc ça se passera jamais en termes de guerre civile, ça sera jamais ça. Mais j'ai envie de, voilà, d'être un peu comme au Brésil, avec des foufous qui tirent un peu sur les gens n'importe comment. Mais est-ce que tu as envie de ça pour ton enfant? Je veux dire, tout seul, oui, tu peux imaginer que tu te fortifies au sommet de ta montagne avec tes différents calibres. Mais est-ce que tu as envie que ton enfant, il va aller à l'école, il va se faire embêter
Ben
tous les jours, ce sera une guerre psychologique, il sera laminé. Ça, c'est pas ton 308 win qui va changer quelque chose, tu
oui.
vois. Plus, t'as la police contre toi.
Ouais,
Donc,
c'est ça le
qu'est-ce que
pire en
tu veux
fait.
faire? Tu veux taper l'enfant qui tape ton enfant? Même ça, ça va mal terminer pour toi. Donc, c'est bien penser à ça et vraiment pas être défaitiste parce que du moment que vous avez envie de travailler, que vous êtes jeune, il y a des possibilités encore, mais ces possibilités de plus en plus, elles vont être dans les pays qui sont blancs, comme elles l'ont toujours été, d'accord? Comme elles l'ont toujours été. Avant la prise de Constantinople, il y avait plus de Turcs qui travaillaient les terres en Grèce qu'en Turquie. Pourquoi? Hein? Parce que peut-être la terre, elle était mieux entretenue, je sais pas, ils sont venus, c'était plus riche parce que voilà, c'était des blancs qui s'étaient occupés. Et puis c'est comme ça a toujours été comme
Bien
ça,
sûr.
malheureusement ça
Et
reste comme ça.
tu soulèves un point intéressant. Ça, c'est vrai que c'est essentiel. En plus, je pense que ça pourrait être dit à la télé sans. Le facteur racial serait suggéré sans être formulé. En fait, par exemple, le PIB, bien souvent, pas toujours, mais très souvent, le produit de la qualité des peuples, en fait. C'est-à-dire, même un peuple, je prends l'Italie, il n'y a pas grand-chose dans le sol italien, mais enfin, c'est un pays développé, quoi, parce que les Italiens sont pas des cons, tout simplement, quoi. tu
C'est ça, il faut garder les gens. Il faut garder les gens, en fait.
vois.
Il faut éviter de mourir bêtement. Et le but disons, des méchants en face, c'est vraiment de faire mourir bêtement ou de rapetir tellement psychologiquement
Ouais.
qu'on n'est pour rien, comme dans Paris 2033, en fait.
Ben, ouais.
Ça peut être un génocide silencieux. Le meilleur génocide et le génocide du 21e siècle, c'est là où la personne demande elle-même d'être exterminée.
Ouais.
Elle a tellement honte que voilà, on commence à voir ça aux États-Unis parce qu'ils sont toujours un peu à la pointe pour l'extrême. En même temps, aux États-Unis, il y a aussi des gens qui pensent tout à fait de manière nette, hein, alors qu'en France, c'est plus tous à gauche, hein, c'est un peu plus tous à gauche.
Ouais. Bah là, justement, là, on a, enfin,
On
on
est
a,
pas réussi, c'est ça.
ce passage de discussion est vraiment intéressant, je te remercie. C'est vraiment intéressant de te voir développer ces thèses-là. Bon, évidemment, comme ton bouquin, c'est une dystopie, bah, ça fait mal au cœur. Mais il y a aussi de l'optimisme, en fait. Il y a de l'amour dans ton livre.
Voilà, c'est ça. Je suis pas dans le déni parce qu'il y en a qui veulent rester en France et qui sont dans le déni. Je fais ça avec mes parents. C'est genre, oui, on reconnaît qu'ils sont un problème, mais en fait, c'est pas si mal parce qu'en fait. Puis il y a aussi la fainéantise. La
Oui.
fainéantise parce que changer de pays, c'est fatigant. On aime bien ses habitudes. On veut pas apprendre une nouvelle langue. En fait, c'est beaucoup plus fatigant de rester en France. Hein. Maîtriser toutes les compétences de survivalisme qu'il vous faudra juste pour rester en vie ou faire un pansement à vos gosses quand ils auront pris une rafale, c'est beaucoup plus fatigant
Ouais.
que de juste partir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les maîtriser, mais c'est juste pensez-y, quoi. Mettez les deux dans la balance avant de faire votre choix. Hein.
Ouais.
C'est tout.
Tu penses pas que les gens ont aussi un vertige, tu sais, la surinformation, ça crée aussi un sentiment d'impuissance. Par exemple, je sais pas si tu restes bloqué sur la natalité des Africains, mais tu te dis c'est comme un raz-de-marée en fait. Comment on va lutter face à ça?
Tout à fait, tout à fait. J'ai une solution pour ça. Ça peut peut-être intéresser certains. Donc, par exemple, avec le livre de Paris 2033, donc toutes ces choses qui me tournaient dans la tête, une fois que c'est mis sur papier,
Ouais.
c'est curieux, mais c'est comme si vous aviez ouvert un tiroir de votre bureau et puis vous l'avez refermé après. C'est-à-dire, j'ai tout dit dans ce livre. Tout ce qui est arrivé dans les dernières années, je savais. Donc, ma copine me dit, oh tiens, ils changent les statuts de Washington aux États-Unis. Je fais, ah tiens, ah ouais, pas bête.
C'est fou.
Oui, c'est dans le livre, tu vois. C'est
Ouais.
pas, je suis pas surpris, je suis pas, oh le flot d'informations, oh quand il y a beaucoup de noirs dans un pays, tout commence à brûler. Oh là là, j'y avais pas pensé. Oui, non, mais Afrique, franchement, New York, je veux dire, personne ne t'a jamais demandé pourquoi il n'y avait rien en Afrique pendant des millions d'années, quoi. Je veux dire, il y a bien quelqu'un qui s'était dit, on va construire quelque chose, et puis après, ça a brûlé. Parce que voilà, c'est le réchauffement climatique, disons. Hein. Mais c'est évident qu'on réfléchit sans préjugés, en fait. Les gens qui ont des préjugés sont les gauchistes. Les gens qui n'ont pas de préjugés sont les gens normaux. Donc, la technique, c'est effectivement de ne pas vous retenir à écrire quelque chose, même si ce n'est pas forcément beau, hein, comme certaines scènes de
Ouais.
Paris 2033, hein, dans le métro, je veux dire, elle se fait toucher, bon, ce n'est pas forcément génial, mais voilà, c'est écrit, après vous refermez le tiroir, et c'est fait. Et pour la natalité, alors c'était un peu pareil. Donc, ta question, c'était
Bah.
cette idée d'impuissance. Ben,
Ouais.
oui, ben, je l'ai eue, mais ce n'était pas récent. Hein. J'avais déjà fait les modèles avant de partir la première fois de France pour
Ouais.
l'Allemagne. Ça avait un peu poussé ma décision de travailler en Allemagne plus tôt, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Merkel et les Syriens, quoi.
Ouais.
Et donc, en gros, il y a deux modèles que n'importe qui peut développer en Excel. Hein. Il y a un modèle basé sur les chiffres de la drépanocytose, où vous mettez le nombre de couples testés, ça vous donne le nombre de personnes qui sont tous les deux, dont les deux parents sont non blancs. Parce que, effectivement, les quelques Grecs et Italiens du Sud qu'on teste pour ça, ils vont pas compter beaucoup dans la balance. Donc, tu fais un modèle avec la drépanocytose, tu t'aperçois que c'est linéaire, la proportion, elle augmente assez linéairement, même par département. Tu projettes ça, tu sais exactement combien d'élèves non blancs ton enfant aura en classe quand il aura 12 ans. Parce que, tu vois,
Ouais.
quand il aura 12 ans, ils sont nés, si ton enfant est né cette année, ils sont nés cette même année, tu sais le nombre de naissances, donc tu trouves ça. Puis l'autre modèle, c'est celui basé sur le nombre de noms à consonance musulmane de l'INSEE.
Ouais.
Donc tu prends la liste des prénoms, tu te fais un peu chier pour classer tout ça. Et puis après, F de Souche, quelqu'un l'avait exactement refait. Donc j'étais content qu'il trouve les mêmes résultats que moi. Et puis, c'était plus. Il avait fait après, donc c'était plus à la date. Et grosso modo, les deux modèles, si tu multiplies le nombre de non-musulmans par deux pour prendre en compte les Africains, donc tu fais l'hypothèse qu'il y a autant d'Africains que
Ouais.
d'Arabes, et bien ils donnent la même chose. D'accord? Donc
D'accord.
je sais qu'entre 2030 et 2050, la classe intéressante, parce que je ne compte pas les vieux qui servent à rien, on sera en minorité. Donc je le savais. Le vertige, c'est de faire tourner ces modèles et de voir qu'en fait, même si on sait le taux de reproduction, etc., on a du mal à comprendre que c'est l'exponentielle. Et ça, c'est le cerveau humain qui est comme ça.
Ouais.
On peut être un très bon mathématicien, on comprend théoriquement, mais on ne comprend pas en pratique ce que ça veut dire. Par contre, récemment, ce qui m'a choqué, c'est visuellement comment ça a changé, parce que je crois qu'il y a un phénomène des cohortes qui arrive et que ça change d'un coup beaucoup plus que
Ouais.
le taux de changement dans la rue, voilà. Donc maintenant, j'ai l'impression de voir que eux.
Oui.
Donc ça, c'était un peu impressionnant. Et puis bien sûr, à l'hôpital, les seuls blancs sont les docteurs.
Oui.
Donc j'étais tout seul. Alors, ah non, il y avait une anecdote intéressante rapportée par ma compagne. Donc dans une des consultations prénatales, il y avait une femme qui était blanche. Et tu sais comment la pauvre, elle s'appelle?
Comment?
Madame. Madame de souche.
C'est pas possible.
Donc Madame de souche, c'est horrible. On n'a sans doute pas pu la recevoir puisqu'elle n'existe pas d'après les gens qui
Là
gouvernent.
là.
Hein? Le français de souche n'existe pas. Donc
Ah mon
la
Dieu.
pauvre Madame de souche, c'était la seule blanche. Et puis tous les autres, ben, on a couché de l'Afrique, quoi. Mais donc ça, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi on parle de minorité alors que la seule minorité qu'il y a en France sont les blancs.
Mais non, on rigole, mais c'est vrai, putain.
Non, mais c'est horrible, mais encore une fois, c'est horrible, mais il vaut mieux rigoler, même s'il y a un peu de cynisme là-dedans,
Ouais.
que déprimer. Il y a des choses à faire, faut en être conscient. Il y a des gens qui sont fous, il y a juste des gens qui sont fous sur Terre. Je pense que ça m'a été ma conclusion. Il faut pas chercher le conflit différent avec les gens dans des vaisseaux extraterrestres. En fait, j'ai des explications pourquoi les gens font ça. Bien sûr, ils sont achetés par Arabie Saoudite, etc. Puis le
Ouais.
fait d'avoir une population qui n'est pas raciste, ça fait qu'ils peuvent avoir des politiques qui passent quand même. Et dans d'autres pays, ça passerait pas. Mais les gens étaient aussi corrompus dans les autres pays, c'est juste qu'auprès de la population, ça passait pas. Donc, la
Oui.
faute, c'est bien la faute des Français à la fin. Bon,
Ouais.
mais mis à part ça, il y a vraiment des fous. Et certains fous, ils veulent faire des monstres. C'est comme dans Resident Evil, tu sais, les films avec les zombies.
Ouais.
Leur but, c'est juste de développer des putains de mutants, de monstres. Alors, ils font ça. Il faut pas se poser la question pourquoi, hein, se demander pourquoi un fou fait quelque chose. C'est vraiment trop long. Il faut juste être conscient que voilà, ils n'aiment pas le beau, ils n'aiment pas l'esthétisme, ils veulent des couples difformes, mal assortis, ils veulent beaucoup de mixité, de l'insécurité. L'insécurité, on comprend, ils peuvent installer leurs caméras et contrôler la population, des trucs comme ça, mais je pense qu'ils recherchent vraiment le monstre.
Ouais.
Donc ce qui me déprime dans la submersion, si tu veux, c'est pas seulement le nombre qui est choquant, c'est aussi que, parce que je pense que le déterminisme, il n'est pas juste numérique, c'est vraiment l'état d'esprit des Français,
Ouais.
ou des Européens occidentaux, parce que je dis des Français parce qu'ils sont assez à la pointe. Déjà avec Rousseau et le gentil sauvage, on était bien en avance sur les autres, mais tous les Européens d'Europe de l'Ouest, l'esprit est juste, c'est juste pas possible. Tous les Français, on leur a mis de la diversité, ils ont tous leur bonne exception, donc s'il se passe quoi que ce soit, ils vont tous commencer à faire des dissertations sur sunnites et chiites, et puis tout le Bataclan, ils vont se perdre dans les détails comme des vrais blancs qu'ils sont,
Oui.
et en attendant, on va flinguer les leurs. Et le truc dans ce genre de conflit, c'est qu'il faut pas faire de distinction. Donc, c'est pas parce que tu es intelligent que tu dois le montrer sur ce sujet, tu vois?
Bien sûr, ouais. Mais
Tu vois
parfois,
ce que je veux dire?
ouais.
Ils se perdent parce qu'ils aiment bien parler, ils aiment bien disserter, ils aiment bien faire étalage de leurs connaissances sur les différences sunnites, chiites, les différents types de. C'est pour ça que le terme non-blanc est assez intéressant parce qu'en termes d'amalgame,
Oui.
ça en jette pas mal. Mais
Ouais, en fait, il y a un
donc,
intellectualisme,
voilà.
en fait, il y a une tentation intellectualiste des blancs, c'est-à-dire à commenter la situation plutôt qu'essayer de la résoudre. Et c'est un vrai souci, quoi.
C'est une manière de se rassurer en fait. Ils essayent de s'approprier une situation qui est horrible. En fait, si tu lis les livres, par exemple, sur le génocide arménien, comment les Turcs ont procédé, Hitler, quand on lui a demandé comment il comptait s'en tirer sur les Juifs, il a dit, mais qui se souvient des Arméniens? On parle d'un génocide qui était avant 1918, quoi. On parle de, vraiment de...
Ça, c'est il n'y a pas si longtemps.
Oui, mais qui n'était pas, c'est-à-dire, c'était pas encore à la mode. Aucun juif n'avait été tué par les Allemands à l'époque, tu vois. Donc c'était vraiment la manière dont c'est fait, dont c'est orchestré au sommet. On leur fait traverser des villages chez les gentils kurdes dont tu nous parles, qui se font un plaisir de les massacrer, de prendre leur esclave. Puis avec des descriptions, c'est super intéressant. Je sais même plus pourquoi je parlais des Arméniens. Oui, ben donc c'est une vraie vérité qui est crue en fait, et on fait pas de distinction quand on massacre quelqu'un. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est en minorité et que la nouvelle majorité t'aime pas, et ben tu te fais tabasser, tu te fais massacrer. C'est triste. Et on est tous à déplorer ça, mais il faut se protéger. Donc pour faire un remake de 300 en France, bon courage, parce que la mentalité n'y est pas. Genre
Ouais, c'est ça, c'est
300, c'est vrai
ça.
qu'ils étaient 1000, ils ont tenu tête à 2 millions, ou 1 million, ça dépend où est-ce que tu... Non, je pense que le 1 million est tout à fait probable. On essaie toujours de diminuer en fait ce que les Blancs ont accompli. Hein. C'est comme c'est certains Français de l'école normale supérieure, je crois, qui disaient la guerre de Troie, elle n'a pas eu lieu. Hein. C'est pas possible qu'Hélène elle ait jeté des bateaux, autant de bateaux pour des petites guerres de barbares. Oui, c'est ça. C'est juste le mythe fondateur de l'humanité des Blancs. Hein. Et ça n'a juste pas eu lieu. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis Achille, il était noir, hein, comme dans le remake. Ça aussi, ça m'avait bien marré de faire le héros exemplaire de blanc d'en faire un noir. Et oui,
Oui, alors
parce
qu'il
que
est,
c'était là.
pour le coup, Homer l'a décrit comme blond,
Blond.
enfin le voilà, blond aux yeux bleus, enfin à un moment donné, tu peux pas dire le contraire de ce qui est vrai, quoi.
D'ailleurs, Ulysse aussi était blond, ce qui m'avait surpris parce que j'imagine toujours un brun.
Oui, c'est
Mais
vrai.
en fait, il est blond.
Mais parce que quand on était gosse, ils nous le représentaient comme un brun quand même, hein, je crois. Hein.
Ah,
C'était
parce que oui. Parce
étonnant.
qu'on a eu avec les. Mais non, je vais pas continuer, je vais pas créer de dissension.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je crois avoir deviné où tu veux en venir. Je pense qu'en fait,
Oui,
on a commencé avec
j'étais malin.
les Italiens étaient les premiers noirs, en fait, de propagande. C'est-à-dire, dans les années 70, tu sais, on a commencé à foutre du Rital partout. Je pense que vraiment, en fait, c'est pas parce que je suis brun que je peux pas faire cette analyse. Si un héros mythologique est censé être blond, pourquoi il devrait être brun? Enfin, je veux dire, voilà, c'est une mutation du.
Mais notons quand même que c'est beaucoup moins grave que d'en faire
Certes.
un asiatique ou un noir ou un truc qui n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi pas un putain d'alien à la place pour Achille, quoi. Il pourrait tirer des lasers
C'est
à
clair.
travers son casque qui ne sert strictement à rien. C'est triste, je n'ai même pas regardé la série du coup.
Ouais, bien
Je
sûr.
suppose que personne l'a regardé parce que les gens qui connaissent, ils vont pas regarder. Et les Noirs, ça les intéresse pas, notre passé. Donc,
Non,
c'est vraiment... Ça montre la force du gauchisme, hein, prêt à encaisser perte sur perte en tant que commercial juste pour faire passer leur message dans nos cerveaux.
c'est clair, c'est
C'est
clair.
triste.
Alors, est-ce que tu penses que, comme dans ton livre, les Européens finiront par être des sous-citoyens, mais je dirais d'une manière administrative, quoi? Est-ce que ça sera validé par l'État, une sorte d'apartheid à l'envers?
Alors, bon, déjà, j'aime pas trop le terme apartheid à l'envers, dans le sens que l'apartheid, c'est juste être séparé parce qu'on est
Oui,
trop
c'est vrai.
différents pour vivre ensemble.
Oui.
Donc, en fait, l'apartheid, il est le même pour les blancs, pour les noirs. Après, les noirs ont trouvé que vivre parmi les autres noirs, c'était une catégorie inférieure que vivre parmi les blancs. Ça, je comprends,
Intéressant,
je
ouais.
compatis. Mais disons, l'apartheid tout court, administrativement, ben, en fait, c'est dur à dire, mais qu'est-ce que ça change en pratique? Parce que. Tu vois, c'est comme dans Paris 2033, c'est pas bien vu de dater une blanche si t'es un blanc. C'est pas
Ouais.
bien vu, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit, tu vois, c'est juste mal vu.
Ouais.
Et c'est plus intelligent parce que il y a ce qui est bien vu et ce qui est mal vu. Et on agit par rapport à ce qui est mal vu plus que, oui, quand c'est interdit, voilà, quand c'est interdit, on peut même se révolter contre, tu sais.
Oui,
Alors que quand
exact.
c'est juste mal vu, voilà, ça se fait pas. Avec Black Lives Matter, j'ai vu qu'il y en a plein, ils ont pris leur noir parce que c'est à la mode, c'est bien vu, tu vois.
Ouais.
Il apporte rien sur la table, souvent ils sont pas beaux, tout le temps ils sont pas beaux. Donc on ne sait pas pourquoi, mais c'est juste que c'est mal vu. C'est bien vu
Ouais.
d'être avec eux. Donc
Oui, tu veux que pour le
je pense
système, ce serait
que.
contre-productif quasiment d'obliger les gens à se métisser. Ça créerait peut-être un sentiment de révolte, alors qu'il suffit de l'inciter fortement finalement.
Voilà, faut l'inciter fortement pour avoir les plus zélés de la classe, disons, qui sentent encore qu'ils peuvent prendre des devants et être récompensés. Mais honnêtement, je veux dire, ça change rien que ce soit écrit. En fait, on va vers des sociétés qui n'ont pas de loi écrite. Hein, c'est ça.
Ouais.
On s'éloigne des lois de Dracon, d'Athènes, qui étaient écrites sur la place publique que tout le monde pouvait consulter, et on va vers une société de qu'est-ce qui est bien vu. Et, je veux
C'est
dire,
vrai.
c'est pas que psychologiquement que les Européens sont déjà des sous-citoyens chez eux, parce qu'ils sont les méchants et tout, mais il y a des discriminations à l'embauche. Je veux dire, moi, j'ai eu finalement un poste permanent, mais ça a traîné. Pourquoi? Parce que les RH, et le manager qui est blanc, il m'a clairement dit, en fait, le problème, c'est un comment il a dit ça? C'est la représentation d'une minorité. En fait, ils ont des quotas qui ne sont pas publics pour le nombre de non-blancs en entreprise. Enfin, je ne
Ouais.
parle pas de toutes les entreprises, je parle de la mienne certainement. Puis je sais que quelqu'un a écrit un livre sur la SNCF et c'est pareil pour les facteurs, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a que les Noirs en France qui veulent être facteurs, ça c'est faux. Et donc ils ont des quotas, et donc dans la pratique, le blanc, il est déjà discriminé à l'embauche. Donc dans la pratique, c'est un peu comme le juif en 1939, il n'a plus le droit d'exercer de nombreux métiers, quoi. Donc on t'enlève ton moyen de subsistance. On peut te taxer quand tu as quelque chose, te taxer à 50% plus qu'un serf du Moyen-Âge, on t'enlève ton moyen de subsistance.
Oui.
Après, il y a des métiers qui sautent tout seuls. Par exemple, vigile de magasin, tu peux pas vraiment être blanc parce que sinon on va te traiter de raciste et
Oui, tu
ridicule.
pourras pas.
Donc
Bah
tous
oui,
les
bien
vigiles
sûr.
sont noirs. Ouais, donc ils ont pris le métier pour eux-mêmes. Bon, c'est gentil. Ils l'ont pas
Ouais.
fait exprès, mais c'est les blancs qui leur donnent cet argument de racisme. Je pense qu'ils sont les Européens de souche. Comme Madame de Touche, là,
Ouais.
sont déjà des sous-citoyens. Ils ont cette fierté inconsciente de se croire supérieurs, donc ils pardonnent tous les avantages qu'on donne aux autres, parce que dans leur morale chrétienne, ça compense un peu le fait qu'en fait, ils voient bien que les autres, ils ne sont pas nés égaux sous le plan intellectuel, physique, ce que tu veux, sous le plan de ce qu'ils sont. Donc, on leur permet ces avantages, mais les avantages, ils sont nombreux, hein. Les citoyens de seconde classe, c'est évident. Dans les hôpitaux, il y a des témoignages qu'on prend en priorité les non-blancs, pas qu'ils fassent de raffus. Enfin, c'est connu. Ou alors, on
Oui.
essaie d'impliquer un truc. Alors, ils ont un accord avec la police. Ils prennent en priorité les non-blancs qu'apporte la police, parce que tu sais, ces gens-là, ils font des petites bagarres, et puis après, il faut que papa blanc les soigne.
Ouais.
Donc, ils passent en priorité les policiers, et en contrepartie, ils viennent tout de suite. Quand l'hôpital les appelle pour un problème justement de quelqu'un qui fait une crise parce qu'il veut passer devant tout le monde. Voilà. Donc tu passes pas en premier à l'hôpital. Ça, c'est pas être sous-citoyen.
Oui. Oui, ça je l'ai
Moi
vu de
j'ai
mes
eu.
yeux, hein, aux urgences, hein, souvent des
Ouais,
Arabes qui font tellement de grabuches que finalement ils passent avant parce qu'ils sont là. Mais c'est grave, madame, je vais mourir là. Et en fait ils passent avant parce que sinon ils foutent la
des
merde.
fois, on leur donne juste le truc parce que ce sont des gens à risque. Moi, nous,
Ouais.
on avait un déclenchement programmé de naissance à un hôpital célèbre, renommé en plein Paris, au centre, hein, on n'est pas à Seine-Saint-Denis. Et on nous dit, mais oui, vous devez attendre. À la fin, on a attendu 12 heures, quoi. L'accouchement, il est venu tout seul. Mais le problème, c'est que tu arrives à l'accouchement, tu es déjà crevé parce que tu as attendu 12 heures dans une salle bondée. Il y avait toujours des personnes plus prioritaires. Alors, le terme est plus prioritaire. Donc, t'es pas sous-citoyen, mais disons qu'il y a des gens plus prioritaires. J'ai vu la madame qui passait, elle avait des boules de partout. Ça m'étonne pas qu'elle était prioritaire. J'aurais pas su dire si la grossesse, elle était devant, derrière, sur le côté. Je veux dire, oui, je comprends, mais il faut peut-être des cliniques séparées, non? Là,
Ouais, c'est
ça
clair.
devient complexe, hein.
C'est pas la
Voilà.
même anatomie quasiment, attends.
Oui, et puis le droit entre guillemets au logement, mais t'en connais beaucoup des blancs qui l'ont eu, le droit au logement, je veux dire, c'est.
Oui.
Il
Ouais, non,
y
mais
a de tous les clodos, ils sont blancs, et tu dis qu'on n'est pas des sous-citoyens, alors. Oui.
c'est vrai que ça a
Mais
déjà
je veux dire,
commencé.
c'est vrai, voilà, c'est que le début.
En fait, comme les blancs, tu sais, je suis en train de réfléchir pendant que tu parles. En fait, comme les blancs acceptent, ça, avec renoncement, on ne se rend même plus compte que c'est injuste. Parce que c'est accepté. En fait, un peu comme quand t'as des gosses, les gosses peuvent te rendre la vie impossible, mais tu t'en plains pas parce que c'est des gosses, tu vois. Et ben, c'est un peu la même chose avec l'immigration. En fait,
Oui, et puis
on.
aussi, c'est aussi notre mea culpa d'être blanc, tu vois.
Ouais.
Au fond d'eux-mêmes, tous ces blancs gauchistes, ils sont racistes, ils savent que, voilà, et ils ont honte pour la créature en face d'eux, donc ils se disent, bon, allez, c'est la moindre des choses. Comme si c'était en fait à la société humaine de compenser
Oui, tout à
les
fait.
tares attribuées à chacun
L'injustice
pour que, tu vois.
de la naissance, en fait, qui est naturelle. De la même manière qu'au sein même du monde blanc, bah, t'as des blancs qui naissent moches, t'as des blancs qui naissent cons. C'est pas pour ça qu'en fait, il faut les faire passer devant toi, quoi. Ça n'a
Ben
pas.
non, ben voilà, c'est ça, les droits doivent être égaux pour tout le monde,
Bah oui.
sinon on n'est plus citoyen égaux.
Bah, j'avais écrit cette question, mais elle a plus trop de sens parce qu'on a compris que tu vivais à l'étranger, mais est-ce qu'au cours de ta vie, t'as. Bah justement, t'as eu des belles découvertes, voilà, des pays où, au contraire, t'as trouvé pire que la France, je sais pas, tes voyages, comment ça s'est
Ah, c'est
passé?
oui, c'est clair. Alors, je vis à l'étranger, juste disons à moitié pour le moment. J'ai fait d'horribles erreurs d'acheter quelque chose en France. Donc,
Ouais.
après, pour revendre ça, donc c'est en fait comme si tout ce que j'ai, il est lié en France parce que
Ouais.
j'étais débile. Et du coup, oui, mais effectivement, pour en revenir à ta question, ben oui, mais c'est pas pareil quand tu voyages à l'étranger comme touriste, quand tu y vas en te disant déjà, je vais m'y mettre. D'accord? Tu vois?
Ouais.
Donc, l'expérience que j'ai eue en y allant pas comme touriste, en y allant dans le but de m'implanter à terme quelque part,
Ouais.
eh ben, c'est effectivement, c'est. J'avais écouté ton témoignage sur la. C'est la Roumanie, oui.
Ouais.
Et je savais déjà théoriquement, parce que tu vois que je suis quelqu'un qui a quand même réfléchi à la question. Je savais théoriquement tous les apports positifs qu'une population de grande majorité comme nous
Ouais.
peut donner, mais c'est autre chose de le ressentir sur le plan pratique. C'est juste incroyable. Et les 3-4 premiers jours, je sortais faire les courses et je voyais ces gens qui sont juste comme toi, ces gens qui sont juste blancs. Tu sais, qui font comme si c'était normal d'être que parmi des blancs. Ils savent pas la chance qu'ils ont.
Ouais, c'est
Et
clair.
là, j'étais vraiment pris, mais j'avais une surcharge émotionnelle. J'avais des larmes aux
Ouais,
yeux.
je
Je
comprends.
pleurais dans la rue. Et ça a duré 3-4 jours avant de m'y faire. Hein. Donc pendant 3-4 jours, je sortais, j'avais. Parce qu'après plein centre de Paris, tu vois ça, mais et je suis absolument le contraire d'un être sentimental. Donc
Oui.
pour arriver à me faire pleurer moi, je pense que c'est une expérience. C'est une expérience. Mais
Ouais,
ça,
c'est comme
sans
un,
doute, ça
comment on dit,
n'arrive
tu
pas
sais,
si tu viens comme touriste.
c'est comme un choc thermique, quoi. C'est comme quand tu te balances dans la flotte alors qu'il fait 40 degrés dehors, tu vois.
Et tu t'aperçois, mais tu sais, tu as dit ce jeune auteur, mais je ne suis pas jeune, hein, j'approche la quarantaine,
Ouais.
et tu t'aperçois combien tu as raté ta vie, mais tu as juste raté ta vie, tu n'avais pas assez d'amis, tu n'avais pas assez de jolies, tu t'aperçois que tu as tout raté, mais tu n'as même pas de haine d'avoir tout raté, parce que tu te dis, ok, mais j'ai finalement trouvé, tu vois,
Ouais, c'est
je suis
ça.
tellement content, pour la première fois de ma vie, j'ai même pas de jalousie envers tous ces. Je vois des couples, ils sont tellement beaux, ils sont tellement jeunes, ils sont bien assortis. J'ai pas de jalousie. J'ai étonné parce qu'en France, en général, j'en vois une qui est tout à fait potable et puis qui est avec un représentant de la diversité absolument
Ouais.
innommable. Et tu te dis, mais quelle conne! Je te dis des trucs comme ça, tu vois.
Ouais.
Ici, jamais, tu vois. Ici, t'en as un qui est un peu gros, sa copine elle est un peu grosse. T'en as un qui est petit, sa copine elle est petite. C'est juste, l'assortiment, c'est juste incroyable. Je sais pas pourquoi exactement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est esthétiquement, on parlait d'esthétisme, c'est magnifique. Et mieux vaut trouver ça tard
Que jamais, ouais,
En
c'est
fait, j'étais
clair.
vraiment con, voilà, j'étais con parce que j'ai voyagé à l'étranger, sauf que j'ai choisi que des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est sûr
Ouais.
que je suis allé en Angleterre deux fois, une fois à Londres et une fois à Birmingham. Après, je suis allé en Allemagne.
Ouais, mais
Vraiment,
ça,
s'il y a des gens qui écoutent, faites pas comme moi, n'allez pas dans le pays. Tous ces pays sont formatés, ok? C'est la même
c'est la
chose. Vous
même
allez voir
chose,
en Espagne, la même chose qu'en Angleterre. Allez ailleurs.
ouais. Ouais.
Perdez pas
Mais ça
votre
aussi,
temps. Ouais, allez-y, mais allez aussi ailleurs.
c'est un truc que je reproche, tu sais, à l'ancienne dissidence, parce que je l'ai suivi longtemps avant d'en être moi-même acteur. C'est, en fait, on n'a pas eu de mentor pour nous indiquer cette putain de direction. On n'a
Ah non,
personne
mais
qui
mes
nous a dit il y
parents,
a
ils diraient
15
que
ans.
tout le monde est pareil.
Alors, en fait, c'est le conseil est aussi simple que ça. Europe de l'Est ou pas, on s'en fiche de la destination. Allez dans un pays blanc, putain, et votre vie va changer. Putain, c'est...
Juste essayez,
Ouais.
vous n'avez rien à perdre. Au pire, ce sera une bonne expérience, hein. Et au mieux, vous referez toute votre vie. Et puis c'est comme, non, tu sais, il y avait ce film, les bronzés, il y a les bronzés 3, je crois. Et il y a un personnage, je crois que c'est Michel Blanc, où tout lui raté en France, tu sais, ça arrive.
Oui.
Et puis il est allé aux États-Unis, il a tout réussi. Et quand il revient en France, ça rate encore. Et vous êtes peut-être un de ce personnage, parce qu'il y a vraiment des choses de tempérament. Bon, il y a les barrières, on a vu, barrières
Ouais.
psychologiques, barrières à l'embauche, pression, stress, insécurité, tout ça, c'est objectif, ok. Mais il y
Ouais.
a aussi des tempéraments qui s'associent mieux dans un pays plutôt que dans un
C'est
autre.
vrai.
Je sais pas, quelqu'un de plus renfermé, peut-être qu'il vaut mieux un pays du Nord, où les gens sont un peu plus froids à l'extérieur. Puis après, mais quelqu'un qui est plus expansionniste, peut-être qu'il a besoin d'un pays plus hostile. Mais en fait, si vous regardez les pays qui sont blancs, comme il n'y en a pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de choix non plus. Je pense que
Ouais.
vous pouvez bien en tester deux ou trois. Probablement, on tombera sur les mêmes et puis on se retrouvera tous là-bas parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits, quoi.
Ouais.
C'est pas terrible, hein.
Alors, c'est quoi tes autres projets d'écriture? Est-ce que tu en as ou est-ce que tu es pris par ta vie? Est-ce que tu vas continuer d'écrire?
Ah bah oui, hélas. Et là, je suis beaucoup pris par ma vie, mais j'essaye de libérer un peu de temps pour écrire. Alors, j'ai rien d'autre sur la diversité en tant que telle. Après, si le livre est vraiment un succès, on pourrait penser à un Paris 2053, mais vraiment, quand c'est très loin, on n'arrive pas à voir, en fait.
Oui,
Donc,
bien
je ne sais
sûr.
pas s'il y aura des Chinois en combinaison d'exosquelettes en train de faire la chasse à cour à Paris. C'est tout à fait possible, mais on ne peut pas prévoir. Donc, ce n'est pas aussi intéressant. A priori, je n'irai pas là-dessus. Par contre, je me fais plaisir et j'écris vraiment plus du tout pour penser à ça, sur
D'accord.
mon cœur. Donc j'écris sur une époque complètement différente. Et vraiment, l'utilité de l'ordinateur et du traitement de texte, c'est que vous pouvez vraiment retravailler le texte plusieurs fois. C'est-à-dire là, j'essaye d'être très proche des faits, des sources, des historiens. Après, j'aimerais rajouter une dimension psychologique plus forte au livre, parce que les gens veulent des histoires, ils ne veulent pas juste ce dont on sait qu'il s'est passé. Donc je peux faire ça en plusieurs fois, ce qui est intéressant.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois, ouais.
Ça aurait été horrible avec un brouillon, comme à l'époque de Maupassant, de devoir, vous voyez, même Maupassant, vous voyez des brouillons, comment il devait raturer le truc pour arriver à quelque chose de beau. Je cite Maupassant parce que c'est vraiment mon écrivain français favori.
Ouais.
J'adore son style. J'aime le style clair qui se lit. Voilà, on lit pas pour se prendre la tête, pour se casser la tête avec des
C'est un
blagues.
vrai
C'est
narrateur,
vraiment.
quoi. Tu rentres dans l'histoire et tout, il est vraiment très bon.
Oui, non, il est magnifique. Donc, j'essaye tant que possible toujours d'imiter son style. Ça c'est clair. Et donc, le traitement de texte m'aide beaucoup pour pas avoir ces ratures. Et donc, c'est pour me faire plaisir. En fait, en termes de romans historiques, il y en a beaucoup par des journalistes sur les Romains, mais il y en a très peu sur les Grecs. Et en gros, depuis 300, même un peu avant, les Grecs m'intéressent un peu plus, j'écris pour cette période. Donc, j'ai déjà 500 pages en format petit,
Ouais.
et donc je compte bien continuer. Ce sera un roman vraiment comme il le faut, donc je prendrai le temps qu'il faut et vraiment j'essaierai de vraiment d'être fidèle à l'histoire et de rendre hommage aux gens qui ont finalement fondé la civilisation occidentale. Par contre, comme projet, j'étais en train de penser, parce qu'au début, et ça dépendra de l'intérêt des gens, je me disais que concernant Paris 2033, une fois qu'on a compris l'ambiance et le style, il pourrait y avoir vraiment des contributions de tout le monde. En fait, ça pourrait être un projet commun d'écrire des tranches de vie de Paris 2033,
Mais je
chose que
comprends.
j'ai peut-être pas prévue. Et donc, sur le site internet, j'ai déjà écrit plusieurs tranches de vie qui sont pas dans le roman, mais qui sont absolument du style du roman. Donc, si vous aimez ces tranches de vie, vous aimez le roman. Il y a aussi des extraits du roman. Je donnerai le site après pour que vous puissiez lire les extraits.
D'accord.
Mais aussi, j'ai créé un proton mail, paris2033@protonmail.com,
Ouais.
pour que je me disais, les gens qui ont envie d'écrire juste, c'est deux, trois pages à chaque fois. Et des fois, ça soulage, ça fait du bien, ça met le tiroir. Et si c'est original et tout, de l'envoyer, et puis après, on le publierait
Ouais, c'est pas
sur le
con.
site pour que tout le monde puisse lire. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, tous ces romans que j'écris, j'aimerais bien les lire, en fait. C'est pareil pour le livre historique, je l'écris parce que je ne l'ai pas trouvé après des heures de
Oui.
recherche. Et en fait, j'aimerais juste, des fois, j'aimerais juste être consommateur et voyager. Mais des fois, il faut l'écrire parce que juste, voilà, personne n'y a pensé, ou ça
Ouais.
n'existe pas. Pas la même chose. J'aimerais bien lire en fait, si jamais il y a des fans, si jamais il y a une communauté active, j'aimerais bien lire des passages, peut-être rajuster un peu le texte pour qu'il y ait une petite homogénéité entre les passages avant de poster sur le site web et poster avec le nom
Ouais.
que vous
Bah,
indiqueriez dans l'email. Moi, ça me ferait plaisir.
c'est une bonne idée, on va dire participative, c'est intéressant. Ouais.
Ah oui, parce que Paris 2033, c'est une participation de tout le monde.
Oui,
Moi,
tout le monde a
je veux
ses
avoir un lecteur
expériences.
qui m'écrit, qui me donne son opinion, qui m'explique. Parce que voilà, sinon c'est pas parfait comme vision du
Ouais.
futur.
Alors, on a quelques commentaires. On a John Nada qui nous dit très bon livre. J'attendais que quelqu'un en fasse une bonne dystopie SF de droite. Quand j'ai lu sur F de Souche que certains scientifiques faisaient des recherches sur des substances qui rendraient moins racistes, Alexandre Costa l'a fait sans tabou sur la race. Contrairement à Oberton dans son Guérilla. Bon, intéressant, ce commentaire. Merci à toi. On a quelqu'un aussi qui nous dit très bon roman, axé sur la couleur de peau et la religion, ce qui est rare. Pourquoi ne pas avoir parlé plus de l'autoritarisme de l'État concernant le gauchisme, par exemple les raids, le débile, les LGBT, etc. Bah, en même temps, il y a beaucoup de lois, hein, il y a beaucoup de lois liberticides hein, qui sont exprimées dans ton livre.
Il y a une semaine aussi, la semaine de la diversité. Je veux dire, t'as
Ouais.
pas intérêt à être absent au bureau pendant la semaine de la diversité. Donc, si tu te rappelles, dans 1984, il y avait la semaine de la haine et des choses comme ça. Bon, ben voilà, t'as le parallèle où on
Ouais.
te passe des visionnages de Trump, qui a été le dernier leader de droite qui a énervé la diversité, et tout le monde se met à crier dans la salle. C'est vraiment, c'est
Ouais.
quelque chose à lire, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, oui, alors, ce que je voulais te demander, Alexandre, c'est finalement, bon, finalement, ton intervention, franchement, est très bonne. Je suis agréablement surpris. Non pas que je pensais que ça allait être mauvais, mais c'est mieux que ce que je pensais. Donc, c'est encore mieux. C'est une bonne surprise. Tu exprimes vraiment très bien tes
Ben, je
idées.
suis
C'est
content
agréable.
d'être avec toi finalement et puis d'être avec vous aussi, de tes followers qui, je pense, sont vraiment d'une bonne qualité, quoi. C'est-à-dire que j'ai
Puis.
l'habitude des conférences avec beaucoup de monde, mais pour mon travail, quoi.
Ouais,
Donc j'ai
bien
l'habitude en
sûr.
fait de m'adresser à beaucoup de cons. Et donc je suis content d'être avec des gens
Puis il y a un côté,
honorables comme toi.
tu vas me dire, ça fait pas avancer le schmilblick, mais il y a un bol d'air frais à entendre quelqu'un, en fait, les expériences partagées, tu sais, parce que ce que tu as vécu toi, je l'ai vécu aussi. Par exemple, l'émotion, simplement d'aller dans un centre commercial où il y a que des blancs, tu vois. Ça paraît con, mais en
C'est
fait,
incroyable.
ouais, c'est incroyable, quoi.
Mais t'as beau le savoir théoriquement, mais je savais tout ça théoriquement avant de venir.
Ouais.
Ça n'empêche pas que tu vas pleurer. C'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que je pense que Paris 2033, parce que quand vous allez écrire de la fiction, ça sera quand même basé sur votre expérience, certains trucs que vous avez vus, que je n'ai pas vécu, ou que je n'ai pas vu, ou que j'ai. En l'écrivant, vous allez aussi faire de l'anticipation. C'est pour ça que ce partage d'expérience, ça peut vraiment être intéressant pour
Oui.
Paris 2033.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que ressentir. En France, on ressent l'insécurité même quand on n'a jamais été agressé gravement. Bah, dans des pays, bon, moi je suis en Roumanie, on ressent la sécurité. Et c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre, tu vois. Le fait qu'à n'importe quelle heure, je sors, je sais qu'il m'arrivera rien. Enfin, ça crée une tranquillité d'esprit qui est inconcevable, en fait, tant que tu l'as pas expérimenté.
Mais il y a des explications effectivement scientifiques à tout ça. Enfin, tu sais qu'il y a différentes zones, tu sais,
Ouais.
autour de l'être humain, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, qui sont différents de niveau de familiarité. Donc, si ta femme est avec toi à 2 centimètres, normalement, à moins vraiment d'avoir fait une erreur
Ouais.
grave, tu vas pas te sentir en insécurité.
Oui.
Mais plus la personne est loin, de manière familiale de toi, plus l'insécurité est grande. Donc, quand t'as un putain de Voilà, quand tu as quelqu'un d'imprédictible qui est juste à 50 cm ou à 1 mètre de toi, mais il est dans ta sphère de sécurité, donc tout le monde est stressé. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les blancs sont pas naturellement les salauds que tu vois dans Paris 16e, toujours stressés. C'est juste le fait qu'ils sont complètement inconscients qu'ils sont stressés. Et après, ils s'attaquent entre eux parce que c'est le seul défouloir qui est permis par l'État. Encore une
Ouais.
fois, c'est permis de manière. C'est bien vu, alors que c'est mal vu de crier sur, je sais pas, le livreur de pizza de la diversité. Donc, ça va que dans un sens. Et en fait, c'est comme. En fait, si tu inondes une cage de rats, tu vois, les rats commencent à se stresser, à s'en prendre les uns aux autres. C'est un peu ce qui arrive avec Paris, c'est que tout le monde est infect, mais je ne suis pas du tout sûr que le Paris de Brigitte Bordeaux était tout aussi stressant et stressé. Je ne
Ouais.
pense pas, en fait. Tu revois ça quand tu voyages à l'étranger, en fait, c'est comme voyager dans les années 80.
Ouais, c'est un voyage dans le
D'ailleurs,
temps.
ouais, ici, ils écoutent la même musique, donc tu retrouves les années 80. Donc, ok, bah, tant mieux, hein, j'aime
Parce
pas
qu'il y a
le
aussi
rap.
des... Ça, c'est aussi la disparition de certains genres musicaux est liée au remplacement de population. Parce que dans les pays blancs, on écoute encore du rock, on écoute encore de l'électro, on écoute encore des trucs qui paraissent kitsch en France, mais qui ici sont appréciés pour ce que c'est, en fait. Des belles
Oui, mais c'est
mélodies.
le truc de la région. Donc, tu vois la qualité, tu te dis, oh purée, ça c'est leur musique. Donc,
Ouais.
c'est comme les musiques de ton papy à l'époque. C'est
Oui, c'est
juste que
vrai.
c'est le style moderne avec des blancs qui chantent. Donc, ils ont des émotions comme plus sophistiquées que juste le pouvoir, l'argent et le sexe, qui est un peu ce qu'on
Ouais.
voit dans les clips où il n'y a que des divers.
Ouais.
Et donc, tu es là et tu es un peu ému. Et aussi, ça fait mal parce que. Tu peux pas parler aux gens qui sont restés en France et qui n'ont jamais voyagé. C'est dur de leur expliquer sur le plan théorique tout ce qu'ils sont en train de rater. Donc,
Oui, c'est vrai.
j'essaie d'expliquer à mes parents et c'est comme un mur. Et ils comprennent pour l'insécurité et le fait de ne pas risquer d'être explosé à chaque seconde, mais
Mais
ils
tu sais,
comprennent pas tout ce que. Voilà.
c'est comme un auto-aveuglement. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un est en relation avec une personne toxique. La personne, enfin, ton ami le sait qu'il est avec une personne toxique, mais en même temps, tant qu'il est avec la personne, il veut pas se le dire. Parce que c'est, en fait, c'est plus confortable de se dire que non, tout va
Oui,
bien,
ce serait
quoi, tu
encore
vois.
plus dur sinon.
Ouais. Alors, bon,
Du
si
coup,
tu
ils
devais...
continuent à rater.
Oui.
D'ailleurs, moi, j'ai pris presque 40 ans à m'en apercevoir.
Bien
C'est
sûr, ouais.
dommage.
Bien sûr, ça fait souffrir aussi de se dire
Dommage
qu'on
de ne
s'est
pas
trompé.
pouvoir expliquer, en fait. Voilà.
Alors, est-ce que tu as d'autres arguments, autres que ton excellente intervention pour motiver nos auditeurs à acheter ton livre Paris 2033, peut-être, je sais pas, des extraits ou des... ce que tu veux, en fait.
Alors, moi, en fait, je veux pas vraiment que tout le monde l'achète juste pour l'acheter. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de refourguer quelque chose. Donc, je veux que l'acheter seulement si vous aimez le style. Mais grosso modo, si vous avez aimé le film Idiocratie, l'idée, hein, pas le film lui-même qui est assez mauvais en termes de contenu, mais si vous avez aimé l'idée, et que vous avez aussi aimé 1984, vous devriez, parce que sinon, je pense que. Je pense qu'on n'a rien à se dire si vous n'aimez pas mon roman d'anticipation favori. Donc, si vous aimez l'anticipation générale, je pense que vous aimeriez Paris 2033. Il y a les extraits en ligne qui sont aussi des tranches de vie.
Ouais, je vais les mettre après. Après tout,
Oui,
ouais.
c'est https www.paris2033.com. Peut-être je pourrais l'envoyer sur le chat pour que.
Ouais,
En
mais
fait, c'est simple, c'est www.paris2033.
je vais carrément faire un
Ouais.
post suite après ça, en fait, suite à ce qu'on se dit là.
Parce que là, il y a vraiment des extraits tels quels du livre pour s'assurer que vous aimez bien le style. Ah, parce
Ouais.
que des fois, on aime bien l'idée, mais on n'aime pas forcément le style ou on aimerait quelque chose de plus compliqué. Donc, là, il y a le petit qui fait du bruit. Je vais sur l'ordinateur pour voir
Ouais, y a pas de souci.
quel.
Y a ton gosse qui s'excite là.
Quel extrait on pourrait avoir oui, avec l'étalonnage.
Tac, tac.
Les tranches de vie, ça pourrait vraiment être une participation collective, je pense vraiment. Comme ça, si j'ai envie de aussi moi de lire quelqu'un,
Ouais,
parce
je
que
comprends.
c'est bien d'oublier, parce que quand je relisais juste certains passages du livre récemment. Et j'avais oublié certains trucs et j'ai bien rigolé.
Ouais.
Ça fait plaisir quand même. De rigoler comme ça sur son propre écrit, ça fait plaisir.
Exact. Ah, en fait, oui, j'avais tapé citation au lieu d'extrait, en fait. Oui, tu cites d'autres, des gens connus aussi.
Pardon, je cite qui?
Non, 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 sur le site paris2033.com, j'ai
Ah
cliqué sur
oui,
l'onglet
t'as noté
citation et pas
citation.
extrait.
Ah oui, tu veux une citation là, genre. Ah oui, ça c'est oui, bah, nos hommes politiques. Bah oui, comme il y a eu la critique qu'il n'y avait pas assez dans le livre de directionnisme de totalitarisme, je vais peut-être
Ouais.
citer cet extrait. Je pense pas qu'il est dans le livre, effectivement.
Vas-y.
Il y a aussi le fondateur et dirigeant du Parti de la Réunion nationale.
Oui.
C'était avant que le FN se rappelle la Réunion, j'avais déjà pensé. Donc, ça, c'est la citation de Mohamed Al-Kadel,
Ouais.
fondateur et dirigeant du Parti de la Réunion nationale.
Ouais.
Il faut fermer les frontières. Aujourd'hui, les musulmans sont majoritaires en France. Mais si nous continuons la politique d'immigration forcenée du gouvernement, qui nous garantit que cela sera encore le cas dans 10 ans? Tous ces gens venus d'Inde et d'Afrique, arriverons-nous, mes frères, à les convertir à un rythme suffisant? Voilà. Donc ça, c'est l'extrême droite dans Paris 2033.
Ouais.
C'est normal, oui. Ils sont déjà dans le pays, maintenant ils veulent fermer les frontières. Donc t'as l'extrême droite. Mais ce sont pas les racistes, hein, les racistes.
Oui.
Alors j'aime bien aussi la déclaration du ministère de la Vérité. Ceux
Oui.
qui connaissent 1984, j'ai juste pris de là. Je veux dire, quand un livre est génial, on ne réinvente pas la roue, on l'adapte simplement.
Exact.
Donc, le ministre de la Vérité durant la conférence ministérielle de la 20e semaine de la diversité, c'était quand même assez tôt. La lutte contre le racisme doit être le projet de toute société moderne. Les inégalités liées au racisme doivent toutes être extirpées à la racine. Mais au cours de cette lutte sans merci contre le mal, nous sommes aperçus que l'histoire elle-même était raciste. L'histoire a donc été abolie, et c'est très juste. Puis, nous nous sommes rendus compte que cela ne suffisait pas, car la réalité, le réel et le monde physique actuel sont tout aussi racistes, et c'est donc la réalité et le réel que nous avons le devoir d'abolir. Voilà. Voilà, tout est dit par le ministre.
Oui, c'est-à-dire. En plus, c'est fou parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais le phénomène de cancel culture qui n'en est qu'à ses débuts, eh bien, en fait, là, il est résumé là par cette.
Ah mais j'ai pas vendu le livre avant, mais sinon j'aurais pensé qu'ils m'ont pris le concept parce que en fait ils
Ouais.
l'ont pris de 1984, mais c'est un truc de gauchiste de toujours jamais avoir lu ce livre et de réappliquer toutes les idées en disant elles sont géniales.
Oui.
Moi j'ai pris ça de 1984. Eux ça leur est venu naturellement parce que je sais qu'ils n'ont rien lu, mais on en est là.
Ouais,
Voilà.
effectivement, effectivement. Bah alors,
Ensuite, on a quelqu'un qui justifie le totalitarisme. Voilà.
tu peux
J'ai
en lire une
passé un
dernière
peu de
si tu
temps, je
veux,
me
hein.
permettrai des propos nauséabonds. Je vous laisserai les lire, c'est dans, donc effectivement, citation. J'avais
Je
complètement
vais.
oublié ce passage. Par contre, Tranche de vie, c'est
Ouais.
plus dans le style du roman,
Oui.
mais ce n'est pas dans le roman. C'est-à-dire, j'avais envie aussi d'augmenter l'univers, parce que le roman, ils doivent suivre un personnage et un déroulement. Et donc, tu me disais, il y a de l'optimisme dans le roman.
Oui.
Oui, il rencontre une femme dans le roman. Après, c'est un peu difficile à croire. Déjà, c'est difficile de rencontrer une femme tout court à Paris de nos jours. Donc, en 2033, cette rencontre dans le métro, elle est un peu. Mais voilà, il fallait quelque chose pour mener à
Oui.
l'action, pour mener à la prise de conscience, etc. Donc, ça a été un Deus ex machina, une femme blanche. Oui. C'est rare, mais bon, ça peut arriver. Sachant que dans Paris 2033, bien sûr, les applications de rencontre ont un algorithme truqué pour que tu ne rencontres pas
Ah oui, ça
cette méchante qui est
c'est
blanche.
terrifiant, ouais.
Bah oui, mais c'est logique. Et après, j'ai vu ça existe vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire qu'après, oui, ils l'ont fait. Mais en fait, c'est logique. Parce qu'ils veulent favoriser et après, ils t'aident. Ils t'aident un peu, tu sais, comme les algorithmes.
Oui, bien sûr, c'est comme les propositions sur les sites porno, quoi. C'est même pas tant le problème des sites porno, c'est qu'en fait, même quand tu cliques pas sur de l'interracial, on t'en propose, quoi. Il y a un côté comme ça, quoi.
Je pense que ça peut être pour le site porno, c'est peut-être plus plus anodin, c'est juste que c'est les plus grands consommateurs, ils aiment bien s'imaginer, donc c'est eux. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai. On oublie aussi ça, hein.
Là,
Par
c'est
exemple,
sûr. Oui, je pense qu'en
ouais.
fait, le site porno est plus sain dans ce sens que l'appli de rencontre.
Oui, alors toi, tu pensais juste finalement obéir au marché. Donc, sur le marché, il y a de plus en plus de noirs en Occident. Ils rêvent qu'ils baissent des blondes. Donc, on leur propose ce genre de contenu, quoi.
Oui, en fait, en même temps, c'est idéologique parce que le marché, souvent, c'est même pas. Souvent, c'est les blancs qui payent pour les services et les noirs sont surreprésentés parce qu'ils comptent au nombre de clics,
Ouais.
alors qu'en fait, ils devraient compter au nombre de personnes qui font un achat à la fin. Et ça, c'est pas justement la diversité parce qu'ils sont habitués à ce qu'on leur achète
Exact.
juste pour eux, ils achètent moins. Bon, je vais lire le passage de l'artisan. J'aime bien l'artisan
Vas-y.
parce qu'un artisan, on imagine souvent un blanc français, et c'est le cas. Donc là, il a un artisan qui vient dans sa maison. C'est pour le compteur EDF. Alors, l'artisan n'avait pas l'air satisfait. Pourtant, l'installation était terminée. Le nouveau compteur d'électricité, ultra communicant. Michel s'était approché. Le travailleur semblait avoir quelque chose à dire, à lui confier. Michel attendit, un peu perplexe. Et en effet, au bout d'un moment, l'artisan se décida. Ses paroles filtrant dans un chuchotement long et continu, parfois plus mouvementé. Alors, j'ai bien tout installé, ok, comme il se doit. Hein. Il n'y a rien à mettre de plus. C'est le même compteur. Et différent. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas censé être au courant. Hein. Vous direz rien sur moi, n'est-ce pas? Une casserole ou un truc en métal par-dessus, tous les jours et nuits, sauf à 6 h du soir où vous pouvez le laisser transmettre, sinon il y aura problème. Mais le reste du temps, la casserole, ça vous protégera des radiations. Des radiations, mais c'est un modèle plus récent, pourquoi il ferait des radiations? Parlez moins fort, monsieur. Bah, quand même. L'artisan avait eu l'air d'avoir eu peur de cette remarque. Prononcé un peu plus haut que son étrange chuchotement monocorde. Il cherchait subrepticement de l'œil les micro-LED. Puis il reprit. Écoutez, monsieur, on vous l'installe, ce nouveau modèle, parce que vous êtes blanc. Ce modèle remplacera à terme les camions à micro-ondes. On en a un aussi, nous, à la maison. Tous les blancs en auront un d'ici juillet 2033. C'est comme ça. Le gouvernement, vous savez, ils avaient prévu le coup depuis longtemps. C'est pour ça que votre contrat d'électricité ne vous permet pas de refuser la pose des nouveaux compteurs. Le déploiement commence à peine. Ils ont peur des racistes. Foutus racistes. Ils veulent détruire notre pays et créer la guerre civile. Du coup, l'EDFA irradie au moins une fois par semaine. Et c'est vrai que ça rend moins agressif, mais mon Dieu, que ça fatigue. Ça fatigue énormément. Plus de risque de cancer alors. Laissez la casserole. Je vous dis parce que vous n'avez l'air de pas être un nazi, monsieur, mais une personne honnête. N'hésite à personne que c'est moi qui voulais dire. Je perdrai mon métier, monsieur. Ils me muteront en Afrique ou ils tuent les blancs dans la rue, monsieur. Encore plus qu'ici. Je comprends, bien sûr. Je n'ai rien entendu. Vous avez un grand cœur. J'aime mon métier, monsieur, et mon pays. Vous voyez, j'ai bien fait l'installation. J'ai rien abîmé. Je vous ai changé deux vieux fils ici qui étaient devenus dangereux. J'aime la France et j'aime mon métier. Voilà. Donc, le EDFA.
Ouais.
C'est Électricité de France et d'Afrique ou Électricité de la France et d'Afrique, c'est le réseau ayant été regroupé avec plusieurs pays africains pour l'aide au développement.
D'accord, on produit l'électricité puis
Et donc
on le
voilà.
leur envoie quoi.
Bah, c'est carrément le même réseau, c'est plus facile que de. Mais voilà, tu as des compteurs qui irradient. Ça, c'était l'installation du nouveau compteur à Paris qui m'avait donné l'idée. Hein.
Ouais.
Effectivement, tu pouvais pas refuser ton compteur communicant. Je me suis dit, oui, il y a des trucs qui communiquent, mais non. Pourrait aussi penser à des trucs qui irradient parce que ça calme. Ce truc de radiation, je l'ai pris, tu sais, les gens qui travaillent dans l'ambassade américaine à Cuba, ils ont vraiment eu des syndromes, l'impression d'être irradiés à travers les
Yes.
murs.
Ouais.
Ouais. Donc, il y a eu des trucs comme ça et je me suis dit, c'est une bonne technologie pour calmer les racistes, pour envoyer des camions à micro-ondes qui les irradient de temps en temps s'ils s'aperçoivent que, par exemple, qu'ils n'ont pas regardé la télé ou qu'ils ont lu des livres, pas
Oui,
trop,
d'histoire
d'activités
ou d'autres.
racistes, ou des livres tout court, hein, je veux dire, c'est vraiment une activité raciste de livre, hein, c'est comme faire des maths, je veux dire, il n'y a que des blancs qui font ça, donc c'est la preuve que c'est raciste. Donc c'est bien qu'ils utilisent des camions. Sinon, bon, un deuxième peut-être rapide,
Allez, un dernier.
présumé coupable. Alors tu veux, oui, non, Mamadou le héros, c'est un trop
Non,
gore,
non,
c'est
ça va, allez.
non. C'est un peu trop gore, il va faire sauter une école ou un truc.
Ah d'accord, bon, laissons tomber alors. On va laisser les gens
Ouais,
découvrir
non,
dans ce cas.
présumé coupable, c'est bien,
Ok,
présumé
ok.
coupable. Allez. Les regards se posent sur la femme qui vient d'entrer dans le wagon et se remplissent très vite de haine. Elle se contente de baisser les yeux, honteuse. Elle qui allait en général travailler en scooter et qui a pris aujourd'hui décision de se rendre au travail en métro. Le scooter est dangereux, il y a des gangs qui vous renversent en voiture, l'avait-on convaincue. Mais elle avait l'impression de prendre trop de place dans ce wagon rempli, de voler la place d'un autre. Mais seulement elle, pas seulement elle, pardon, et l'enfant dans son ventre sont au banc des accusés. Pourtant, elle n'a pas demandé de place assise aux jeunes affalés sur les banquettes, ni aux grosses femmes vêtues de madras qui la toisent avec dédain. Cela, jamais elle ne se le permettrait. Il lui faut pourtant aller au bureau. On ne lui a permis qu'une semaine de congé après l'accouchement. Prendre plus la priverait, elle et son futur d'enfant, de toute ressource pour son avenir. Avec tout le monde qui est déjà sous la planète, entend-elle murmurer derrière elle. Le voici, c'est le boule d'orphelin d'Afrique que vous pouvez adopter. Elle a honte. Elle est coupable. Les regards haineux des gens enturbannés le lui prouvent. N'est-elle pas blanche et enceinte? Et elle sort de la station suivante, presque en courant, sous la huée de la foule révoltée. Voilà. Ouais, ça
Les
fait pas rire, mais voilà.
gens qui, tout au long de l'entretien, t'ont trouvé très sympathique, ils disent, mais finalement, sa plume est très noire et très, très dure, et c'est vrai. Mais quand on imagine le futur dans des pays comme ça en voie de remplacement, c'est vrai qu'on se dit qu'on atteindra ce niveau de détresse psychologique.
Il y a déjà plein d'amis qu'on connaît qui disent qu'il ne faut pas avoir d'enfants parce qu'on peut en adopter un. Et adopter un, ça peut toujours un compte aussi en Afrique. Hein.
Oui.
Voilà quoi. Donc on y est déjà un peu. Tu te sens coupable d'être enceinte. Le truc le plus naturel qui a reproduit ton ADN pendant des millions d'années, tu vas l'arrêter sous l'emprise d'une idéologie complètement délirante. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, puisqu'on est à ce passage, c'est bien, ça me rappelle que ton appel à faire des enfants, en fait, c'est vraiment, c'est devenu un acte révolutionnaire, en fait. Si vous
Oui.
faites des gosses, c'est vous faites deux gosses, vous en faites plus, vous avez fait plus que tout ce qu'on a écrit en termes de romans ou de pamphlets, ou l'effet est plus. Et d'ailleurs, certains vous regardent avec la méchanceté qui va avec. Hein.
Ah oui,
Peut-être que leur
c'est...
avantage, il est juste dans le nombre. Ils vous regardent méchamment parce que vous avez un enfant qui est blanc. Et donc, c'est un acte révolutionnaire. Et
C'est une vraie
ça
attaque du
permet.
système, en fait. C'est con, mais...
Ah, mais complètement. Mais c'est l'acte révolutionnaire ultime. Il n'y
Ouais.
a pas à aller plus loin. Hein. Je sais pas, plus tard, ça sera un appel à la violence d'appeler les blancs à avoir des gosses, parce que tu peux comprendre que si tu as des racistes et qu'ils ont des gosses, ça fait des gosses racistes. Donc,
Ben,
hein, si tous les blancs sont racistes.
mais c'est intéressant parce que tu sais, dans les articles, bah évidemment, comme je suis une personnalité publique, des fois il y a des journaux de gauche qui font des articles contre moi. Et en fait, ils essayent de mêler natalisme et suprémacisme. En fait, pousser les gens à faire des enfants, c'est suprémaciste, quoi. Putain, mais les
Ah, bien
enculés,
sûr.
quoi.
Bien sûr, même si c'est que dans le 2 des remplacements de génération, même si tu
Ouais.
demandes juste d'en avoir 2, au 0 ou 1, qui est le cas de la plupart des femmes en France, en fait, des blanches, bien sûr,
Ouais.
et ben c'est une révolution, parce que c'est pas ce qu'ils ont prévu.
Ouais, au bout de tout ça, il y aura l'idée que le maintien des blancs sur Terre est une stratégie suprémaciste, en fait. Parce qu'ils ont intégré l'idée que le blanc avait une supériorité, en réalité, naturelle, finalement. C'est fou, quoi. Tout est inversé, en fait. C'est eux les suprémacistes, quoi. Tu vois, c'est ça
Mais
qui
en
rend
fait, il
fou.
faut comprendre que c'est absurde parce qu'on est en train de parler. Des fois, on écoute même, je sais pas, tu écoutes Mamadou qui t'explique. On discute sur le plan philosophique avec des gens qui n'ont ni créé la philosophie, ni même créé le langage. Ils n'ont pas de. Je veux dire, là-bas, c'est juste pour marchander quand tu discutes. Donc, tu
Oui.
marchandes ton tapis. Donc, en fait, tu as un but et après, n'importe quelle part pour y arriver est bonne. Donc, l'article de gauche qui balance n'importe quoi, c'est juste ça, c'est juste des paroles pour arriver à un but. Il n'y a pas de
N'y a
discussion
pas de
à avoir, il n'y a
réflexion,
pas
ouais.
de.
Ouais.
Non, on peut di discuter entre nous, entre gens éduqués, mais avec eux, c'est complètement absurde. Je veux dire, c'est comme, en fait, j'ai cette image un peu dans la tête ces derniers temps. T'as un débile, t'as un fou qui t'explique des trucs. Toi, tu l'écoutes. Mais qui est le vrai, véritable fou? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi? C'est
Ouais.
ça qu'il faut se poser comme question.
Je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, on a dit plein de choses, on a fait un entretien assez long. Je te remercie, Alexandre. Il y en aura d'autres si tu veux bien, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Et le public aussi
Oui,
réagit bien.
s'il y a des questions de ton public, n'hésite pas.
Yes. Bah oui, bien sûr, on fera peut-être une partie 2, et puis on sait jamais, pour les futurs romans, pourquoi pas travailler encore ensemble. En attendant, bien là, il y a Paris 2033, donc Alexandre Costa. Vous avez le lien dans le canal, c'est le dernier post que j'ai mis, mais je vais remettre un post. Cette émission sera disponible en rediffusion demain sur un groupe, le groupe où je stocke tous les podcasts du jeudi. Et bah, il me reste à te remercier encore une fois pour la clarté de tes idées et puis ta bonhomie aussi, parce qu'on s'est quand même bien marré.
Ben, merci à toi, merci à vous. Oui, c'est dur de se marier sur des sujets difficiles, mais quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment le but, n'est pas de déprimer, hein, même si je dis c'est un livre qui s'écrit en entrée parce qu'il y a des choses que l'inconscient en fait a déjà écrit, l'inconscient il a déjà prévu. C'est pour ça que la plupart des gens sont stressés. C'est juste que des fois certains arrivent à voir ce que leur inconscient a prévu et à le mettre à écrit parce
Ouais.
qu'ils n'ont pas 10 000 préjugés qui s'intercalent entre leur gut feeling, leur ressenti et leur conscient. Donc ça facilite le travail d'écriture, juste retranscrit. Mais il y a cette fiction et ce dénouement. Il faut savoir que la première version du livre, il n'y avait pas la partie, disons, un peu plus violente à la fin que tu as pu
Oui.
voir. Et ça finissait bien, mais sans toute cette action. Et en fait, j'ai mis l'action, même si c'est prendre plus de risques. Mais je sentais que, en général, on aime bien tension qui monte et puis un dénouement un peu plus explosif, hein, c'est dans les films comme
Oui,
dans ce type de roman
c'est un
qui
outil narratif, on
facilement.
va dire.
Voilà, ça fait du bien, ça faisait plaisir de l'écrire ou de le relire, ça m'a fait plaisir, mais a priori j'en écrirai pas un autre. Donc je veux dire, un ça suffit, c'est dans le tiroir. Moi j'ai fini avec ce sujet. Et le
Oui.
livre sur les Grecs, oui, je te le proposerai quand il sera fini, parce que c'est quand même, dans un sens, c'est quand même culturel,
Oui.
c'est quand même notre passé, c'est quand même pas normal qu'on n'a pas déjà écrit ce roman que je suis en train d'écrire.
Bah
Je sais pas
c'est.
qu'est-ce que les écrivains foutent. Et si d'ailleurs il y a des gens qui nous écoutent et qui ont fait des études de lettres, mais alors j'aimerais les engueuler un peu, parce que je me suis aperçu, les gens qui font des études de lettres et qui n'écrivent pas, c'est vraiment dommage. Vous avez un meilleur style que moi. Sans doute, et donc il faut absolument l'utiliser pour créer. Il faut pas juste commenter des anciens textes d'auteurs qui sont déjà morts, hein.
Bien
Bon,
sûr.
passant, il a écrit, c'est déjà parfait. On s'en fout de votre commentaire de texte. On s'en fout de. On a déjà tapé ça en cours de français à l'école. Mais écrivez, créez. N'ayez pas honte. Faites même un petit roman, 50 pages, et comme ça, on pourra se lire les uns les autres. Parce que
Oui.
c'est dommage de pas créer quand on a eu un parcours en lettres. Je pense vraiment.
Oui, un parcours en lettres et une expérience qui est la vie en France telle qu'elle est aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance et elle doit être transcendée par la création, hein.
C'est vrai, il y a des témoignages, mais même, je disais même juste d'écrire même en roman historique ou dans ce qui vous fait plaisir,
Oui.
juste pour avoir, pour utiliser en fait vos connaissances de la langue française. Moi, j'ai eu un parcours de mathématicien, je suis absolument pas écrivain, mais j'ai toujours voulu écrire, et je me le permets de temps en temps. Mais si j'avais fait lettres, j'aurais vraiment voulu être écrivain, pas juste commenter des choses déjà écrites.
Ouais.
C'est juste ça.
Ok, bah encore une fois, merci à toi, merci au public de nous avoir écoutés, et puis si vous avez apprécié les propos d'Alexandre, eh bien vous pouvez commander son livre Paris 2033 et vous nous en direz des nouvelles. Voilà l'ami, à bientôt.
Merci, au
Salut
revoir.
à tous.